Je suis David Nicolas, start-upper, sportif et père de famille. Mais je suis surtout obsédé par l'exploration du potentiel humain. Quels sont les secrets de nos super-pouvoirs? Comment pirater nos journées pour être plus performants, plus heureux et plus en forme? C'est pour répondre à ces questions que je rencontre deux fois par mois des sportifs de haut niveau, des entrepreneurs inspirants, des médecins holistiques et des scientifiques renommés. Et ça marche! Les hacks qu'ils m'ont donnés ont littéralement changé ma vie. Si c'est aussi ton cas, la meilleure façon de me soutenir est de me laisser une note de 5 étoiles sur ton application de podcast. Ah, au fait, j'ai écrit un e-book avec mes meilleures routines. Pour le télécharger, rejoins ma newsletter sur laquelle je partage mes réflexions, retours d'expérience et inspirations. On est avec une bibliothèque géante de gènes à disposition pour nous adapter à des environnements en perpétuel changement. L'expression de l'un ou de l'autre, en réaction à tel ou tel facteur, détermine ce que l'on appelle l'épigénétique. Pour autant, nos sociétés modernes sont caractérisées par des perturbateurs immunitaires et l'influence du stress chronique qui modifie drastiquement l'expression de cette magie génétique. Qui plus est dans un contexte d'appauvrissement nutritionnel où les épinutriments, ces composés indispensables à l'activation ou l'inactivation d'un gène, sont parfois trop peu présents. Quels sont-ils et comment veiller à les consommer en suffisance? C'est l'un des sujets abordés dans ce podcast avec Denis Richer, micronutritionniste de renom et auteur de plusieurs ouvrages de référence. Mais nous évoquons aussi la place centrale du stress, qu'il soit physique ou cognitif, et des armes dont nous disposons pour le réguler et éviter qu'il ne nous fasse tomber aux frontières de l'hormèse, sur les terres de la désadaptation. Belle écoute.
Salut Denis.
Bonjour. Bonjour.
Écoute, j'aime bien commencer ces podcasts par un petit check-in. L'idée, c'est que tu me dises avec quelle énergie tu viens me parler aujourd'hui ou quelque chose de chouette qui t'est arrivé récemment.
Beaucoup d'énergie positive que je ramène avec moi du Valais, puisque je suis installé en Suisse depuis le début de l'année et que je peux aller travailler en luge les jours où la météo le permet. Donc, c'est plutôt bien.
Ouais, c'est génial. Mais justement, tu vois, moi, j'étais à Valmorel il y a une semaine et demie pour une Spartan dans la neige, donc c'est une course d'obstacles. Ouais. Et donc j'ai eu l'occasion aussi de faire un petit peu de luge, mais malgré moi, c'est-à-dire que je me pétais la gueule et que je glissais sur quelques dizaines de mètres après.
Là, c'était pas la même histoire, non. Là, c'est vraiment bien. C'est des ondes très positives ici. Et en plus, je travaille dans une structure qui s'appelle la Maison de la Santé et du Bien-être, qui est une approche qui regroupe des thérapeutes alternatifs pluridisciplinaires. Donc, j'ai rejoint cette entité-là pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions et l'esprit libre.
En tout cas, le nom laisse présager de belles choses. Et d'ailleurs, ce matin, j'avais rendez-vous avec le docteur Cadieux, qui fait partie de l'équipe du docteur Mouton, un autre invité que j'ai reçu sur ce podcast, qui a une approche de médecine fonctionnelle, qui est plutôt que d'essayer de traiter de façon allopathique les symptômes, qui s'intéresse plutôt aux causes et à la prévention. Et donc, j'étais assez intéressé par le fait de suivre le cheminement, la méthodologie, le process qu'il y a derrière. Et donc, j'ai fait notamment des analyses assez poussées de mon profil d'acide gras, de mes profils hormonaux, etc. Et c'est très, très intéressant. Donc, on a débriefé là ce matin et ça m'a donné un petit peu de matière justement pour notre conversation. Mais j'y viendrai plutôt vers la fin du podcast. Okay. Je te propose déjà de parler un petit peu d'épinutrition, d'épigénétique. C'est un sujet qui m'intéresse particulièrement et c'est difficile de trouver des experts français pour en discuter parce que ça reste un domaine d'expertise qui est relativement récent. Déjà, est-ce que tu pourrais me dire un petit peu ce que c'est l'épigénétique?
Alors, c'est plutôt l'épinutrition, l'épigénétique. L'épigénétique en soi, il y a beaucoup de gens qui pourraient l'expliquer. On va partir de ce qui se passe. En fait, on n'a que 2% de nos gènes qui nous servent au cours de notre vie, mais ils ne sont pas tous exprimés en même temps ni de manière aléatoire. C'est-à-dire ce qui détermine l'expression des fonctions que nos gènes pourraient nous attribuer, c'est uniquement l'influence des facteurs environnementaux, que ce soit l'influence des infections, beaucoup, de notre alimentation, de la pollution, du stress, de notre écosystème intestinal plutôt que microbiote, j'y reviendrai. Et donc, en fonction de ça, il va y avoir des mises en œuvre de processus ou de programmes qui n'étaient pas forcément ceux qui auraient dû se dérouler, ce qu'on va sur les pathologies chroniques. Et par rapport à ça, l'épinutrition, c'est un concept qui ne devrait pas exister, mais qui existe par défaut. C'est-à-dire qu'à l'origine, la définition de la nutrition, c'est la science qui s'intéresse au rôle énergétique des aliments, au rôle fonctionnel et au comportement alimentaire. Mais la vision médicale a segmenté, s'est intéressée juste à l'aspect énergétique, et on parle de diététique et nutrition, et c'est le truc qui est insupportable. L'aspect fonctionnel et l'influence des ingrédients tels que les micronutriments ou autres a été laissé de côté aussi. Et puis, on a malheureusement abandonné au psy le comportement alimentaire, alors que le cerveau, il fonctionne en fonction de ce qu'on lui apporte. Et on peut avoir des pathologies qui s'inscrivent simplement parce qu'on ne s'est pas intéressé aux modalités de la prise alimentaire. Donc, ça a amené, au milieu des années 80, à l'émergence d'un concept qui était la micronutrition, qui s'intéressait aux micronutriments d'une manière générale. Et en fait, il y a deux choses, moi, qui m'ont éloigné du concept. Le premier, c'est que c'est une approche qui réunit aussi bien des gens qui sont pharmaciens et qui vont faire de l'allopathie naturelle au comptoir que des gens qui sont dans une vraie réflexion systémique. Et à partir du moment où la même expression décrit des modalités d'approche complètement différentes, c'est que le nom doit évoluer. Et effectivement, on sait aujourd'hui que notre santé est largement influencée par l'épigénétique et il y a des nutriments qui présentent des vertus vraiment importantes pour notre santé qui agissent tous en modulant l'expression de nos gènes, soit directement, soit en contrôlant l'influence des perturbateurs de l'épigénétique, à savoir le stress, la pollution, puisqu'on va, évidemment, l'épinutrition, c'est les nutriments pour gérer le stress, les nutriments pour renforcer l'immunité, les nutriments qui nourrissent notre intestin, les nutriments qui permettent de mettre en place l'hormèse face aux polluants. Donc, naturellement, pour moi, l'épinutrition décrit comment concevoir cette approche systémique de manière vraiment systémique, parce qu'il ne suffit pas de se déclarer systémique pour l'être. C'est un peu comme les démocrates. Ce n'est pas parce qu'on se réclame de la démocratie qu'on est démocrate. Bon, c'est la même histoire. Et j'ai déposé le terme pour qu'il ne soit pas la propriété ou repris par des laboratoires.
Tu le sais, produire un épisode de Limitless Project, ça prend du temps, ça demande de l'énergie. Et depuis que j'enregistre en studio, ça me coûte 400 € par épisode. Vous êtes nombreux à me demander comment me soutenir. Aujourd'hui, j'ai une réponse claire. Il s'appelle la routine des audacieux. C'est une véritable boîte à outils. J'y partage tous les protocoles, les hacks et les routines que j'ai testées, affinées et intégrées dans ma vie ces 5 dernières années. Le but, t'aider à libérer ton plein potentiel. Sans t'imposer des méthodes ultra complexes ou des gadgets hors de prix. C'est vraiment la loi de Pareto appliquée à la santé, la longévité et la performance. Le livre sort début septembre, mais tu peux déjà le précommander. Et c'est crucial, plus il y a de précommandes, plus les libraires s'y intéressent et plus ce projet a de chances d'exister en grand. Alors si tu veux me donner un coup de main et soutenir ce projet en investissant 20 € dès aujourd'hui, le lien de précommande est dans la description de l'épisode. Merci infiniment pour ton soutien.
On va revenir un petit peu sur ces épinutriments qui peuvent contrecarrer les dommages ou en tout cas les expressions de certains gènes qui n'auraient pas dû l'être à cause de perturbateurs endocriniens, de pollution, etc., comme tu l'as dit. Mais juste pour revenir un petit peu sur le fonctionnement, donc, ce que tu dis, c'est qu'on est avec une espèce de grosse encyclopédie qui est la quantité de gènes qui sont disponibles, mais qui sont pour la plupart non exprimés, donc dormants. Ouais. Et en fonction de ce qu'on va découvrir et vivre dans notre vie, certains vont s'exprimer ou non. Et notre société étant potentiellement désadaptée à notre génome, certains gènes s'expriment alors qu'ils ne devraient pas. C'est bien ça?
Alors, je ne suis pas d'accord sur le fait que notre société est désadaptée à notre génome, sinon il n'y aurait plus de société. Notre société a modifié certains facteurs environnementaux auxquels on doit s'adapter selon le principe de l'hormèse qui indique qu'il faut toujours un minimum d'agression pour développer les possibilités d'y faire face. Mais il y a plusieurs choses qui se sont associées ces dernières années. Et tu évoquais certains perturbateurs de l'épinutrition, mais tu n'as pas cité les plus importants, qui sont les perturbateurs immunitaires. Je ne parle pas d'infection, je parle de perturbateurs immunitaires et l'influence du stress. Alors, ce que j'appelle perturbateur immunitaire, c'est, si tu veux, l'immuno, ce n'est pas l'infectiologie, et c'est encore moins l'épidémiologie qui est la manipulation des chiffres. L'immunologie, c'est considérer qu'à un moment donné, face à des situations qui pourraient nous agresser, notre système immunitaire répond, mais parfois, il y a des acteurs, des agents qui, un peu comme un virus informatique, vont modifier durablement la réponse de notre système immunitaire. Et beaucoup de pathologies aujourd'hui ou de situations que l'on attribue à un germe, genre un Covid long, une maladie de Lyme, ne sont pas dues à cet agent infectieux à proprement parler, mais à la persistance d'une réponse immunitaire qui est buggée. Parce que l'immunité, c'est la défense et la tolérance. Donc jusque-là, ça paraît facile. C'est différencier le soi et le non-soi, ça paraît évident. Sauf que quand on a 10 puissance 14 bactéries dans l'intestin, est-ce que c'est du soi ou du non-soi? Là, on a 3 heures pour répondre. Et quand on a 10% de notre ADN qui a de l'ADN viral, qu'est-ce qui se passe si un virus présente des analogies avec des séquences d'ADN qui sont déjà intégrées, mais qui sont aussi virales? Et c'est l'histoire des réactions croisées. Donc, ça met un grand bazar. Et en fonction de notre... De la façon dont on va s'alimenter, qui est influencée par ces éléments, qui est influencée par notre stress, en fonction de l'appauvrissement des aliments, qui est un élément qui est bien connu, et puis en fonction aussi du manque de diversité de notre écosystème intestinal, on va se trouver face à des situations qui dépassent nos capacités d'adaptation. Mais c'est un ensemble d'éléments, et c'est, disons que ce n'est pas qu'on n'est plus adapté à notre génome, c'est qu'on on ne crée plus les conditions permettant d'exprimer correctement. Tu faisais l'analogie avec l'encyclopédie. Bah, souvent, j'explique l'épigénèse en indiquant que nos gènes, c'est comme si on avait une grande bibliothèque mondiale où il y avait tous les ouvrages écrits dans toutes les langues. Les seuls qu'on va utiliser au cours de notre vie, c'est ceux qui sont écrits en français. Mais on ne va pas commencer à lire l'encyclopédie à 3 ans et lire Pip Gadget à 25 ans. Enfin, ça peut arriver. C'est-à-dire qu'en plus, il y a une organisation chronologique de l'expression optimale de certains gènes. Donc, l'anomalie, c'est pas seulement faire intervenir des gènes qui ne devraient pas intervenir, mais en faire intervenir certains de manière anachronique ou décalée dans le temps. Et ça, c'est l'influence, par exemple, du stress, c'est l'influence du sport sur la croissance des gamins qui peut être retardée. Normalement, il y en a qui, on voit l'exemple des gymnastes qui commencent leur croissance quand ils arrêtent la pratique de la gymnastique. Donc, ça veut dire qu'il y a des programmations qui devraient se dérouler qui sont complètement contrecarrées par ces éléments-là. Et moi, dans mon approche de l'épinutrition, l'idée, c'est d'aller regarder non seulement ces différents facteurs, leur importance hiérarchique, mais aussi leurs interactions, parce qu'il y en a qui pèsent plus lourd que l'autre. Il y en a qui pèsent beaucoup plus lourd que d'autres, et ce n'est pas ceux qu'on a l'habitude de pointer, parce que ça oblige à une vraie réflexion systémique. C'est le stress. Qu'est-ce que c'est que le stress? Et les perturbations immunitaires, où là, dès qu'on rentre dans l'immunologie, on n'est plus beaucoup à discuter.
Donc précisément, tu parles du stress, on pense évidemment au stress chronique mental qui est un petit peu habituel, mais au final, le sport est aussi une forme de stress. Alors que précisément, quand tu vois une population qui est de plus en plus en surpoids, avec des maladies métaboliques, du diabète, etc., tu leur conseillerais de faire du sport. Est-ce que ce n'est pas un peu le serpent qui se mord la queue?
Alors déjà, il y a deux problèmes qui se posent. C'est que quand on dit leur conseiller de faire du sport, c'est faire du sport, c'est une injonction qui est aussi précise et donc idiote que manger. Bon. Ça nécessite de d'abord définir le stress. Le stress n'a rien à voir avec la gravité des événements sur l'échelle des faits divers. Il y a des psychiatres qui avaient bossé là-dessus dans les années 80, qui avaient créé un registre où il y avait des cotations en fonction des événements subis. Et donc, les cobayes qu'ils avaient interrogés, vous avez eu un divorce, c'est 5 points, vous avez eu une faillite, c'est 7 points, un deuxième divorce, c'est 3 points, parce que finalement, ce n'est pas une si mauvaise nouvelle, ainsi de suite. Et donc, les volontaires leur racontaient leur vie. Et ils avaient une certaine cotation et donc ils avaient un score. Et après, ils regardaient le cortisol salivaire, il n'y avait aucune corrélation entre les deux. Donc, déjà, quand on définit le stress, on confond stress et sollicitation. Le sport de haut niveau, quand les gens sont en harmonie, ce n'est pas un stress, c'est un niveau de sollicitation. Le stress survient quand il y a 4 choses. Nouveauté, imprévisibilité, absence de contrôle et atteinte à l'ego. Donc, moi, j'utilise beaucoup le cortisol salivaire comme marqueur des réponses globales au stress, parce que le stress psychologique que je viens d'évoquer, il y a l'exposition à l'altitude, l'exposition au froid, le décalage horaire, la charge de travail chez le sportif qui constitue autant de stress. Et en gros, quand on mélange tous les ingrédients, soit on s'adapte, soit on se désadapte. Et avant mars 2020, on avait à peu près 20% d'anomalies sur le cortisol chez les sportifs de haut niveau. Depuis juillet 2020, on est à 80%. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'intervalle? Toutes les compétitions se sont arrêtées. Imprévisibilité. Qu'est-ce qui va se passer après? On n'en sait rien. Est-ce que le sponsor va être encore là? On ne sait pas. Est-ce que le club va mettre la clé sous la porte parce qu'il n'y a plus de recettes au guichet? On n'en sait rien. Est-ce que je continue de m'entraîner? Je m'entraîne ou je ne m'entraîne pas? Donc, il y a eu un gros stress derrière. Et puis, c'est reparti. Sauf que cet impact-là, ça a été le facteur de désadaptation ultime qui fait que même une fois que la situation semble être redevenue normale, la physiologie continue de s'exprimer. Ce cumul de stress, à un moment donné, c'est un peu un pyromane qui a mis le feu. Et donc, ce n'est pas l'événement sportif qui fait le stress, c'est dans quel contexte il vient s'inscrire et chez quels individus, avec quel niveau d'imprévisibilité de la situation il se trouve. Et on le voit, on parle des sportifs, on pourrait parler aussi de la conduite automobile. Hein, on voit très bien qu'il y a des comportements qui ont complètement basculé depuis 2 ans, parce que une fois qu'on a mis le stress chez quelqu'un, c'est comme si on fout le feu chez lui, on s'en va. C'est pas parce qu'on s'en va que l'incendie s'arrête.
On en revient un petit peu au principe élémentaire de l'hormèse qui dit que un stress n'est positif et hermétique à partir du moment où on laisse suffisamment de temps au corps pour s'adapter et revenir plus fort.
Oui, donc, sauf en fait, s'il a, sauf dis, s'il a, que, il faut qu'il ait les ressources pour le faire.
Oui, voilà. Donc, ce que tu dis, c'est que là, on a tendance, un petit peu comme la quantification du stress mécanique, où, par exemple, je ne sais pas, en course à pied ou même dans n'importe quel sport, où tu essaies de programmer ton entraînement de telle sorte à augmenter le stress de façon progressive pour que le corps ait suffisamment de temps, tes tendons, etc., de s'adapter et ne pas dépasser ce seuil d'adaptation, sinon tu cours à la blessure ou, dans le cas contraire, au surentraînement. Bah là, un petit peu de la même façon, dans nos sociétés, on devrait réussir à s'adapter progressivement à cette dose de stress pour qu'elle soit gérable par notre corps. Et en réalité, on n'est pas designé pour le chaos.
Ouais, et puis, alors plus ou moins, mais même la façon dont tu abordes la question de la désadaptation des entraînements chez le sportif en raisonnant sur l'entraînement, bah c'est un débat que j'ai eu pas mal avec des physiologistes. Et on part du principe que le seul facteur de désadaptation, c'est le franchissement d'une ligne d'entraînement au-delà de laquelle on ne peut plus s'adapter. C'est la notion de charge externe, hein, c'est tout simplement en physiologie, c'est on mesure le nombre d'heures. Alors pourquoi est-ce qu'on mesure le nombre d'heures? Parce que comprendre ce qu'est réellement la performance, c'est nouveau. Peut-être pas, mais c'est imprévisible, ça échappe au contrôle et ça touche à l'ego, donc c'est un facteur de stress. Et donc, la seule chose sur laquelle on peut jouer dans le cas du stress, c'est le contrôle. Et on contrôle quoi? Ce qu'on peut chiffrer, les calories et les heures d'entraînement. Et donc, la répétition à l'infini de stratégies systématiques, on compte les heures, on compte les bornes, c'est une stratégie universelle du monde du sport pour gérer le stress face à l'imprévisible. Et typiquement, quand on attend une réponse particulière d'une forme d'entraînement, on sous-entend que il n'y a rien d'autre qui intervienne sur la réponse de l'individu. Et moi, je prends souvent cet exemple. Imaginons un athlète qui doit faire une séance, par exemple, de 10 fois 400. Il fait le mardi soir, après avoir bossé 8 heures, avoir pris les transports en commun, arrivé en retard, s'être dépêché et s'être aperçu qu'il oublie ses chaussettes chez lui avant d'aller mettre ses pointes. Et puis, on lui demande de le faire le dimanche matin à 11 heures, bien reposé. La bonne question qui se pose, c'est est-ce que le même entraînement a le même effet? Et on fait comme si c'était simplement une question d'accumulation de séances qui déterminait l'adaptation. Donc, à partir du moment où on se veut systémique, mais qu'on restreint son regard à un seul élément du système, on est forcément approximatif.
Après, d'une certaine façon, tu vois, le fait que le plan il soit très normé, très noté, très calibré dans la semaine et très programmé, c'est aussi un facteur de réassurance parce que c'est habituel, c'est quelque chose qui est prévisible. Et tandis que de te dire « Ah ben non, aujourd'hui, je me sens pas trop bien et tout, je vais pas le faire aujourd'hui, je vais tout le faire demain », ça pourrait être une source de stress aussi parce que tu vas remettre en cause toute ta stratégie, tu vas te dire « Ah ben peut-être que je vais pas atteindre mes objectifs », du coup, ça décale tout mon programme, tu vois. Enfin, quelque part, c'est très fausse prévisibilité.
Ouais, mais c'est pas encore ainsi, voilà que ça se place. C'est-à-dire que la première question à se poser, c'est qu'est-ce qui détermine la réussite? C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas répondu à cette question, je ne comprends pas bien comment on peut faire des planifications d'entraînement. On va prendre un exemple tout bête, hein, celui des Ironman. Bon, je travaille avec pas mal d'athlètes qui font des Ironman et la question que je leur pose toujours, c'est, et je peux te la poser, qu'est-ce qui détermine le succès sur un Ironman?
Je sais pas, je suppose que pour 50%, ça doit être la préparation physique et les 50% restants, quand tu commences à plus en pouvoir, c'est les ressources mentales.
C'est ça, t'as d'autres tartes à la crème à me sortir ou t'as la...
Vas-y, raconte-moi.
Mais ils ont tout ça. Premier critère, c'est être capable de nager vite et de manière économique. Et le deuxième critère, c'est être capable de courir en ayant tiré des watts en vélo. Ce qui sous-entendrait que le contenu d'entraînement devrait privilégier ces aspects-là et non pas superposer un entraînement de natation comme si on était nageur, un entraînement de course à pied comme si on était coureur, un entraînement de cycliste comme si on était cycliste. C'est-à-dire qu'il faut réfléchir aux facteurs qui sont déterminants dans la réussite, qui deviennent des clés de la recherche, de la progression. Deuxième élément, on va regarder les moments de la semaine, et ça c'est surtout important pour les amateurs, où ces séances qu'on considère les plus importantes et les plus difficiles seront les plus faciles à caser. Donc, c'est ce qui veut dire qu'on va peut-être faire éclater la logique d'entraînement en club, mais je suis désolé si tu dois faire une séance de 7 fois 1000 et que tu as fait 9 heures au boulot et que le vendredi, tu as ton après-midi, et bien plutôt que d'aller faire une sortie longue le vendredi en se disant « j'ai du temps pour aller rouler », tu vas placer ta séance qui est déterminante pour la réussite. Et le troisième critère, c'est quelle est la quantité de repos qui est nécessaire. Et là, j'ai une anecdote qui est quand même assez intéressante puisque Je fais du coaching global avec Mélanie Haniké, qui est nageuse de haut niveau, hein, qui a fait partie du Quator, qui a battu le record du monde 4 fois 50 mètres nage libre. Et 50 mètres, c'est simple, c'est 25 mètres d'apnée, enfin 25 secondes d'apnée. Bon, quand je parle de coaching global, c'est aussi de travailler sur les modalités de stress, parce que si la seule chose sur laquelle le sportif peut avoir prise, c'est le contrôle, contrôler une situation, ce n'est pas remettre le slip et les chaussettes avec lesquelles on a gagné il y a 10 ans en arrière, sans les avoir lavées entre-temps, mais c'est imaginer tous les cas de figure possibles. Par exemple, j'ai travaillé avec une triathlète qui se sentait très, très prête pour aller faire en brin. Bon, en brin, tu connais l'épreuve, il n'y a que la natation qui est sur du plat. Hein. Le reste, ça monte tout le temps. Elle me dit, je me sens vraiment bien. Je dis, OK, on va travailler sur trois trucs. Premièrement, tu te jettes à l'eau, c'est la cohue, tu prends un coup sur le nez, tu bois la tasse, qu'est-ce que tu fais? Deuxièmement, tu roules depuis 10 km, il y a du verre sur la route, tu crèves, qu'est-ce que tu fais? C'est un point important parce que pour avoir suivi des cyclistes professionnels, montre en main quand un gars crève sur un contre-la-montre, il perd, ça prend 20 secondes à changer de vélo, à l'arrivée, il perd 1 minute 30. Pourquoi il perd 1 minute 30? Parce qu'il crève, il panique, il remet des watts et dans la première côte, il éclate. Bon. Et troisième situation, j'ai dit, tu sors du parc à vélo, il y a une mamie qui traverse, tu fais un écart, tu as un petit point derrière la cuisse. Je l'ai fait visualiser les trois situations pour que si jamais ça arrive, et ça pas dans l'émotion en se disant, qu'est-ce qui m'arrive, mais quel est un plan? Et qu'est-ce qui s'est passé? Comme par hasard, départ natation, elle boit la tasse, elle prend un coup sur le nez, saigne du nez, elle sort de l'eau, elle est deuxième en natation, elle fait un podium. Parce qu'elle avait anticipé la situation. Donc ça, c'est un premier point. Et donc, je reviens à cette histoire avec Mélanie. Elle va faire une course où elle finit épuisée. Donc, son coach lui dit un mois d'arrêt. Et puis, elle m'appelle la veille de sa reprise. Elle me dit, Denis, est-ce qu'on peut faire un bilan? Ça ne va pas, je me sens fatigué. Qu'est-ce que je dois faire? Je dis, bah, qu'est-ce que tu dois faire si tu es fatigué? Quelle est la meilleure arme contre la fatigue? Elle me dit, bah, je vais me reposer. Mais ouais, mais si je me repose trop? Je dis, de toute façon, si tu t'entraînes en étant fatigué, explique-moi comment ça va aller. Donc, elle coupe 3 semaines de plus. Elle reprend l'entraînement. 4 semaines d'entraînement, elle va faire un titre français. 3 semaines d'entraînement supplémentaire et elle bat le record du monde. Et en fait, elle m'envoie un message et me dit, j'ai compris que ce qui était important, c'était d'être fraîche pour effectuer les séances déterminantes. Et c'est pour ça qu'on part à l'envers, puisque comme on ne se pose pas la question préalable, tu vois, c'est comme sur l'UTMB ou la Diagonale des Fous, qu'est-ce qui est le critère déterminant de la réussite? C'est peut-être d'être capable de résister au sommeil, c'est peut-être d'être capable d'être lucide quand on prend une descente la nuit et qu'il a plu, c'est peut-être d'être capable de résister à l'exposition à la chaleur, ce qui demande des ressources et de la fraîcheur. Donc si la fraîcheur est une clé de l'entraînement, je ne vois pas comment on peut raisonner sur des quantités. Donc ça oblige à être physiologiste dans sa démarche. Et comme les gens n'ont pas forcément cette vision-là, ils se rassurent en saucissonnant l'athlète. Il y a un préparateur mental, il y a le kiné, il y a l'entraîneur de natation, il y a l'entraîneur de vélo, il y a le diététicien qui lui fait le régime approprié, qui lui mesure ses calories, et il ne peut rien lui arriver, sauf qu'il ne gagne jamais.
Ouais, en fait, c'est une approche vachement réductionniste, que ce soit d'un point de vue alimentaire, nutrition, ou même d'un point de vue entraînement, où tu dis, OK, il faut que je fasse tant de kilomètres par semaine, tant d'heures d'entraînement, et si je ne les fais pas, je ne vais pas atteindre mon objectif. Alors que toi, ce que tu dis, c'est que plutôt que d'essayer d'atteindre cet objectif qui est simplement quantitatif et qui est basé sur absolument rien de concret d'un point de vue physiologique, on devrait plutôt favoriser la qualité des séances et pour ça, être dans les meilleures dispositions possibles pour les faire, quitte à en sauter une de temps en temps.
Bien sûr, bien sûr. De toute façon, quand on regarde les critères, notamment de maintien de la VO2 max, premier critère, c'est l'intensité des séances. Deuxième critère, c'est le nombre de séances. Et troisième critère, il n'y a pas de critère. C'est-à-dire que le volume... Ce n'est pas parce que tout le monde fait du volume que c'est le volume qui détermine la performance. Et même aujourd'hui où les distances s'allongent, est-ce que tu vas faire simuler ta compétition à l'entraînement? Imaginons quelqu'un qui prépare un 160 bornes en trail, ce n'est pas parce qu'il va faire une sortie de 100 km qu'il est sûr de ce qui va se passer dans les 60 derniers sur la course. Donc, soit on se rassure en faisant du mimétisme, soit on fait confiance au fait qu'on va imaginer les choses autrement.
Ouais, et donc là, à ce niveau-là, donc c'est là où la préparation mentale, par exemple, et la visualisation peut entrer en ligne de compte, où tu vas imaginer des scénarios catastrophes pour avoir un plan au cas où ça arrive et pas ouais. te sentir démuni et dans le chaos, ouais. justement. Donc, tu essaies de réduire les facteurs d'incertitude. Peut-être que d'un point de vue entraînement, tu vas peut-être aussi inclure des séances dégradées, entre guillemets, dans des contextes et des conditions dégradées. Par exemple, il pleut dehors, il fait froid, il y a du vent, bah, tu n'as ouais. pas envie de sortir, mais peut-être que ça serait pas mal de sortir parce que si le jour de la course, tu as ces conditions-là, bah, tu seras mieux préparé.
Ouais. Si mais tu ne le feras pas tout le temps, bien sûr, c'est comme la chaleur. La question qui se pose, c'est, je vais faire une compétition à la chaleur, est-ce que je m'expose tout le temps à la chaleur au risque d'exploser, ou est-ce que je m'expose jamais à la chaleur au risque de ne pas être prêt? Et c'est une question d'équilibre global, sachant que ce qu'avait montré aussi tout le travail qu'on fait, c'est que, notamment dans le vélo, à un moment donné, l'exposition à la chaleur, c'était le gros truc. La personne qui réussit le moins bien à s'adapter à la chaleur, c'est celle dont le cortisol est le plus perturbé. On y revient toujours parce que les modalités d'adaptation au stress, elles ne sont pas saucissonnées. D'un côté, le stress mental, de l'autre, le stress thermique. Ta tolérance au stress thermique, elle est conditionnée par ton cortisol, qui est lui-même conditionné par ta charge de travail et ta charge émotionnelle.
On va y revenir de toute façon sur comment essayer de créer les conditions idéales, le meilleur terreau possible d'un point de vue physiologique pour être dans cet état d'équilibre. Mais justement, tu vois, dans cette anticipation du chaos, on l'a appliqué d'un point de vue sportif. Si maintenant on extrapole sur la vie d'un entrepreneur, par exemple, ça me parle puisque j'ai une boîte à côté, ou même dans la vie quotidienne des gens, est-ce que tu penses que le fait de s'exposer, tu as parlé tout à l'heure d'hormèse, tu as parlé d'exposition au froid, au chaud, est-ce que tu penses que le fait d'ajouter un petit peu de chaos dans nos vies qui sont hyper linéaires, hyper linéaires dans ce qu'on choisit et par contre potentiellement chaotique pour ce qui nous arrive de l'extérieur, permet justement d'avoir plus de résilience, plus de facilité à gérer ces situations imprévisibles, ces signes noirs, comme dirait Taleb.
Alors, linéaire, je suis pas si convaincu
que ça. Oui, linéaire, quand je disais linéaire, juste pour préciser, je parlais de linéaire en termes de température, en termes d'habitude de vie, en termes, tu vois, tout ça, au final, on a
la même. Oui, mais tout le monde, pas forcément, tu as des gens qui travaillent en France, qui ont des boîtes à Dubaï et autres, mais là, ce qu'il faut surtout, c'est toujours anticiper, c'est-à-dire identifier les facteurs de réussite ou facteurs d'échec, et ensuite avoir un coup d'avance. Par exemple, moi, je prends souvent l'exemple des personnes qui se convertissent thérapeutes et qui mettent beaucoup de conviction parce que c'est un choix qui a du sens pour eux. Et je leur dis, vous savez, les deux premières années, vous ne risquez pas bien travailler. Ça n'a rien à voir avec vos compétences, c'est juste qu'il faut avoir un réseau, être reconnu ou autre. Je dis donc, comment gérer votre stress? Il faut que vous envisagez trois cas de figure. Premier cas de figure, effectivement, vous mettez beaucoup d'énergie, vous y croyez, ça ne marche pas trop. Qu'est-ce que vous faites? Quelle stratégie économique vous avez anticipée en disant « c'est vraiment ce que je veux faire, même si je fais que 30 patients par mois la première année, je veux vraiment le faire, donc comment je m'organise, quitte à prendre un meublé, etc. » Mais une fois que les choix sont posés, ils ne sont plus facteurs de stress. Deuxième situation, ça démarre aussi bien que j'avais prévu, ok. Et troisième situation, oh, putain, ça démarre tellement fort, je ne vais pas imaginer ça, je stresse parce que je n'arrive plus à prendre tout le monde, je suis dépassé au niveau de mon planning, etc. C'est d'ailleurs que l'anticipation, c'est ce qui veut dire aussi, est-ce que je vais empiéter sur mes espaces vitaux pour être à la hauteur de mon niveau d'exigence? C'est l'opposition permanente qui est entre les besoins et les valeurs. C'est-à-dire que je fais ça pour sauver le monde, mais je veux tellement sauver le monde que je me perds moi-même. Donc, si on ne travaille pas sur ces aspects-là, forcément, le stress arrive. Et quand on travaille sur la gestion du stress avec la cohérence cardiaque, avec, par exemple, la méditation, c'est comme si on se demandait, quand il y a une fuite d'eau, est-ce qu'il vaut mieux mettre des éponges ou des serpillières? Alors que moi, ce qui me paraît intéressant dans l'anticipation des situations, c'est qu'on coupe le robinet avant que ça déborde. Donc, il y a beaucoup moins de stress, ce qui fait qu'on est beaucoup plus dans le cognitif, qu'on est beaucoup plus paisible. Bon, en appliquant ces approches-là, je peux être à 95% du temps paisible, ce qui ne veut pas dire que la vie est linéaire, mais il y a aussi une autre manière d'aborder les choses, c'est que j'en parlais l'autre jour justement avec une personne en Suisse qui m'avait interviewé, c'est que j'ai eu la chance d'avoir quelques heures de cours, je suis à l'époque avec Albert Jacquard, qui disait la démarche scientifique, c'est la jubilation face à l'inconnu et à la nouveauté. Or, aujourd'hui, la nouveauté fait peur. La nouveauté fait peur parce qu'on n'est plus confronté justement à des niveaux de déstabilisation qui sont suffisants. Ça rejoint un petit peu ce que tu disais.
Ok, donc plutôt que d'être un optimiste naïf, et puis d'avancer tête baissée sans trop se poser de questions en se disant « vas-y, je serre les fesses et ça passe ou ça casse », il vaut mieux être plutôt un stratège et jouer comme une partie d'échecs en anticipant les différents scénarios, positifs comme négatifs. Il ne s'agit pas d'être seulement à anticiper le pire, mais aussi à anticiper potentiellement le meilleur, de telle sorte à être moins surpris si l'un de ces plans finissait par se réaliser. C'est bien ça.
Ouais, regarde, c'est ce qui se passe chez les kinés. Qu'est-ce qui fait qu'ils font un burn-out? C'est qu'à un moment donné, ils ont plus de succès qu'ils le voudraient. Ils sont dans l'incapacité de dire à quelqu'un, bah non, je ne peux pas vous prendre, allez voir un collègue. Et à un moment donné, ce stress-là qu'ils n'ont pas identifié, il est problématique. C'est-à-dire que typiquement dans ce genre de situation, je prends deux minutes pour expliquer ça parce que ça me paraît important. T'imagines un kiné, un vendredi, qui a son agenda blindé jusqu'au soir, qui a fait ses 60 heures. Il y a une mamie qui l'appelle à 14h15 qui dit Je me suis coincé le cou, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour moi? Donc lui, il a une partie de lui qu'on va appeler les besoins qui se dit, ah mais non, j'ai fait mes 60 heures, tant pis la vieille qui rentre chez elle, tout bon. Puis il y a une partie de lui qui dit, ah mais cette pauvre dame, il faut que je m'occupe d'elle. S'il n'a pas identifié en fait que cette situation-là est génératrice de stress, quelle que soit la décision qu'il va prendre, il y aura toujours que la moitié de lui qui est d'accord et il sera toujours en stress. Donc dans ce genre de situation, moi quand ça m'arrive, qu'est-ce que je fais? Ben, je vais dire à la personne, alors c'est pas en kiné, mais c'est en nutrition, c'est pareil, je dis voilà, j'entends bien votre demande, je peux vous recevoir vendredi à 23h45, vous serez la 37e personne que je vais recevoir, est-ce que ça vous rassure? Donc ça fait partie des techniques de mode mentaux, où par ce genre de questionnement ouvert, on met les gens en mode intelligent, et en général la réponse est, oh non, écoutez, si ça peut être un peu plus tard, c'est très bien. Ce qui fait qu'en ayant ces stratégies-là, on réaligne les valeurs et les besoins, c'est-à-dire en gros, oui, je veux faire des choses bien pour les gens, mais... si je me crame, je ne pourrai plus rien faire. Et moi, je travaille beaucoup sur ces aspects-là de compréhension que le stress, son mode d'expression, c'est l'absurde. Tout ce qui est absurde, tout ce qui n'a pas de sens, c'est l'émanation du stress, c'est-à-dire que la personne ne s'exprime pas avec son cerveau intelligent. Et 80% des situations nous génèrent du stress qu'on ne va pas. Je vais donner un exemple très clair. Je faisais une formation au mois de mai en Suisse où je parlais d'intestin et cerveau. Il était 9h15, il y avait 70 personnes dans la salle. Et je leur dis, est-ce que vous pensez que vous avez connu un stress ce matin? Tout le monde dit, non, tout va bien. Je dis, ok. Donc, je vais vous montrer que ce n'est pas vrai. Je leur demande, quand vous êtes parti de chez vous ce matin, est-ce que vous avez entendu une personne vous dire, oh, ben, quelle chance j'ai de vivre avec quelqu'un qui veut toujours apprendre, qui travaille toujours, qui est toujours curieux, qui pose plein de questions, qui ne s'arrête jamais. C'est vraiment génial. Et il n'y a pas une main qui s'est levée. Après, je leur dis, est-ce que vous avez entendu quelqu'un dire, ah, mais t'es encore barré ce samedi, mais... Tu te formes tout le temps, mais j'ai l'impression que ça ne sert jamais à rien. Pourquoi tu fais tout ça? Et là, il y a 20 mains qui se sont levées. Et je leur dis, ok, est-ce que ce que vous avez entendu est juste? Aussi bien au niveau justesse de raisonnement, je veux bien faire les choses, je te demande pardon de vouloir me perfectionner. Et au niveau justice, est-ce qu'on attend de prendre un scud de la part de la personne qui vit sous le même toit? Et là, les gens disent non. Donc, c'était un stress que vous n'avez pas identifié. C'est un stress inhibé. Et je dis maintenant, ne vont baisser la main que les personnes qui ont fait ni burn-out, ni maladie auto-immune, ni fibromyalgie, ni endométriose. Et là, il n'y a que 3 mains qui se sont baissées. Donc, on baigne en permanence dans des formes de stress qu'on n'identifie pas, parce que la première chose qui se passe quand on a du stress, on ressent. Il y a une espèce de putain de truc au creux du ventre ou dans les muscles qu'on ressent. Et on écarte ça, parce que comme on est dans la rationalité, je ne sens pas la situation. Ok, pourquoi je ne la sens pas? C'est mon cerveau qui m'avertit qu'il y a un truc qui est déconnant. Au contraire, j'essaie de comprendre pourquoi je ne ressens pas cette situation. Et le sportif, il n'écoute jamais ce que lui dit son corps, parce qu'il s'interdit, dans la faiblesse, il s'interdit de se dire, je dois faire une séance, mais j'ai un petit point ici, je la fais quand même. Tout ce qui vient contrarier cette perception-là, c'est notre corps qui nous parle, c'est qu'il y a quelque chose qui est déconnant et dont on doit tenir compte, qu'on doit analyser pour sortir de la situation.
Ouais, c'est intéressant. Après, d'un autre côté, si tu t'écoutes trop aussi, peut-être que, enfin, tu vois, moi, je vois plein de gens qui ont du mal à se faire violence et qui, au final, ont une action dans leur vie qui est relativement limitée parce qu'ils manquent de discipline, parce qu'ils manquent d'énergie, de motivation, tu vois. Et, ouais. Donc,
alors, est-ce que c'est du domaine du cognitif, ça, ou est-ce que c'est pas déjà une forme de stress? C'est-à-dire,
peut-être.
Que si tu es face à une décision où tu dois prouver que tu peux y arriver, tu veux absolument te prouver que tu vas y arriver. Mais tu as tellement peur de rater que tu vas créer des conditions qui feront que tu n'auras malheureusement pas eu de chance. Bon, il y a un cycliste français qui prend sa retraite à la fin de l'année, je pourrais donner son nom, tout le monde l'a compris. Il aurait dû 10 000 fois gagner un grand tour. Il a trouvé des solutions incroyables pour ne pas y arriver.
Ouais, c'est vachement intéressant. Et du coup, outre ce facteur d'anticipation et d'essayer de faire plusieurs scénarios pour éviter d'être surpris le cas échéant, dans ton exemple là de la conférence que tu as donnée le matin, en réalité, c'était quelque chose qui était entre guillemets imprévisible, les réactions des uns et des autres. Et ce que tu pointes plutôt, c'est outre le stress, une mauvaise écoute de soi-même et notamment de ses émotions, la tendance à rejeter les émotions lorsqu'elles arrivent, à continuer sa journée comme si de rien n'était, alors qu'au contraire, la première étape pour gérer ces émotions, c'est déjà de l'accepter, donc se dire « Ok, c'est normal qu'elle existe, c'est normal que je ressente ça ». Puis après, tu peux éventuellement, j'avais fait un épisode avec Bernard Henselem, un neuroscientifique sur le sujet, et après, il y a plusieurs stratégies, tu peux La pose rationalisée, tu peux la détourner, tu peux faire plein de choses. Mais la première étape, il disait, c'est toujours l'acceptation, de dire « Ok, ouais, c'est normal que je ressente ça », plutôt que le combat qui est « Bah non, tu ne devrais pas être stressé par rapport à ça » ou « Tu ne devrais pas te mettre en colère par rapport à ça », tu vois. Déjà, en train d'essayer de modifier ton discours intérieur parce que tu considères qu'il n'est pas normal, alors que l'émotion n'est rien de plus qu'un signal. Et à ce titre, il devrait pas pouvoir être jugé, tu vois, il est juste objectif.
Ouais, parce que ça, c'est des croyances qui font qu'on va juger ça. La clé, c'est vraiment d'identifier ce qui pourrait être absurde dans ce qui déclenche ce stress. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose à un moment donné qu'on capte, qui nous amène à dire ce qui se passe, c'est pas logique, qui nous dérange. Et de ce fait, l'idée, c'est qu'on peut pas toujours tout anticiper. Mais moi, il y a des fois, dans la manière de parler des gens, je perçois qu'il y a du stress. Toujours, jamais, il y a qu'à, il faut, il suffit, c'est simple, etc. Donc là, je regardais sur le site de l'équipe ce matin les commentaires à propos de l'équipe de France de hand. Ils ont juste oublié un truc, c'est qu'ils sont en finale de championnat du monde et que... Tu peux spéculer quand tu connais rien à une discipline en étant injurieux vis-à-vis de certains. C'est qu'en fait, l'émotionnel commande. Aujourd'hui, on gouverne en mettant les gens en état émotionnel. Donc, c'est assez facile parce qu'après, tu divises facilement et puis tu vas tailler en pièces les gens qui ont un regard un peu critique ou qui ont du recul.
Ce que je trouve intéressant dans ton approche, c'est que tu ne considères pas le stress comme valeur absolue, c'est-à-dire tu n'es pas en train de dire « oh, il y a trop de stress ou pas assez, qu'il soit mental ou physique », c'est simplement qu'il dépasse les capacités d'adaptation du corps, ouais, et aussi qu'on n'en a pas suffisamment conscience ouais, pour pouvoir le gérer et le manager correctement. Mais sinon, ouais, dans l'absolu, il ne devrait pas avoir d'impact sur notre épigénétique.
Non, parce que si on l'identifie, qu'on en comprend les causes, déjà on le baisse au niveau psychologique. Et moi, je suis convaincu que beaucoup de comportements alimentaires ou de comportements d'entraînement absurdes ou aberrants sont la conséquence d'un stress qui n'a pas été identifié. Regarde la difficulté qu'on a à faire respecter des jours de repos. D'un point de vue biologique, on sait très bien qu'au plus haut niveau, s'il n'y a pas deux jours de repos semaine, il y a des perturbations biologiques. Je peux en parler des heures et des heures. Et quitte à ce qu'on se dise, doubler certains jours, faites un gros bloc sur 2-3 jours et faites varier vos modalités d'entraînement. Mais on sait que le triathlon, par exemple, est un sport qui a inventé la demi-journée de repos. Ah, mais on a une demi-journée de repos par semaine. Je dis, je suis entièrement d'accord avec vous, mais je leur explique souvent, voilà, imaginez que vous ayez une amie qui bosse à Market ou on va dire une grande surface dont on ne donne pas le nom, vous allez identifier, et qu'elle vous dise, ouah, le patron me fait bosser dimanche matin. Je dis, est-ce qu'elle va vous dire, c'est super, j'ai une demi-journée de repos, ou est-ce qu'elle va dire, ils font chier, il faut bosser le dimanche? Bon, et donc, on joue sur la détermination et la volonté de l'athlète pour faire passer le truc absurde de la demi-journée de repos. Une demi-journée de repos, c'est un jour d'entraînement. Point.
Et pourquoi 2 jours et pas 1 ou 3?
Parce que j'ai observé sur des anomalies biologiques qui peuvent être rencontrées, que ce soit sur l'inflammation, stress oxydant, d'autres éléments, que c'est l'équilibre optimal qui permet de limiter les dégâts. Parce que l'entraînement, ce n'est pas un espace infini où on peut même remplacer une discipline par une autre. Il y a des gens qui disent bah, les problèmes de fer chez les coureurs à pied, c'est l'onde de choc quand on court, donc on va leur faire faire du vélo. Et en fait, il y a plus de problèmes de déficit en fer chez les cyclistes que chez les coureurs à pied, parce qu'il y a aussi un phénomène qui s'appelle l'hémolyse intravasculaire, c'est-à-dire la destruction des globules rouges quand il y a des turbulences circulatoires, et ça, c'est directement corrélé à la quantité d'entraînement qu'on fait. Donc, ce n'est pas interchangeable. On ne peut pas dire, OK, on va remplacer 1 heure de course à pied par 2 heures de vélo pour avoir du volume. À un moment donné, le temps consacré à l'entraînement est un espace fini.
Oui, mais au final, tu pourrais très bien avoir 2 jours dans ta semaine, mais faire le même volume hebdomadaire parce que tu en fais plus les autres jours. Donc, qu'est-ce qui est important? C'est volume hebdomadaire ou c'est la répartition?
C'est la cohérence. Et la cohérence passe par une identification préalable des critères de réussite, identification des points à travailler, et puis troisièmement, l'assimilation optimale. Donc, il y a par exemple, si on réfléchissait sur quelles sont les qualités à travailler chez un gardien de hand, quels sont les critères déterminants de la performance? Là, pareil, vous avez 4 heures, je ramasse les copies à la fin. Bon, donc, quand on a répondu à la question, et au plus haut niveau, la réponse a été trouvée, tout ce qui est mis en œuvre vise à assurer une fraîcheur mentale permettant d'exprimer les qualités. Donc, on ne peut pas faire s'entraîner 4 heures par jour, mais c'est pareil en tennis, on ne peut pas faire s'entraîner 4 heures par jour quelqu'un si à un moment donné, il n'est pas ce qu'il fait. C'est encore une fois, c'est des stratégies où on se rassure, plutôt que de prendre le risque de se dire qu'est-ce qui est vraiment important et comment on va travailler là-dessus. C'est comme quand on passe un concours, tu ne révises pas forcément tout, tu fais des impasses, mais tu travailles les choses qui vont tomber à coup sûr, et c'est ce qui fait que tu vas réussir. Il faut être courageux, faut être courageux et original.
C'est pas évident de trouver quand même ce juste équilibre. Et là, tu as cité le mot assimilation, et tu parlais notamment des cyclistes qui avaient une trop forte dépression en fer ou quelque chose comme ça. Est-ce qu'on pourrait pas dire aussi, je crois que c'était dans ton livre justement, Épinutrition, où tu disais qu'il y avait énormément de sportifs qui souffraient de problèmes intestinaux, de perméabilité, d'hyperperméabilité intestinale ou même de dysbiose, etc. De là à dire qu'on a des difficultés d'assimilation, de métabolisme de certaines vitamines et vitamines, minéraux, etc., il n'y a qu'un pas. Donc, à partir du moment où tu as du mal à assimiler certains nutriments et micronutriments, ben forcément, tu diminues la qualité de toutes les cascades enzymatiques dans lesquelles ils sont impliqués. Ouais. Et donc, tu crées des carences. Enfin bref, au final, tu crées un cercle vicieux qui peut être que négatif. Et au final, tu auras beau, par exemple, dans le cas du fer, manger plus de fer, ça ne réglera absolument pas le problème.
C'est un exemple, mais on a aussi des données que j'avais... comment dirais-je, compilé sur un certain nombre d'années. Chez des sportifs professionnels, après 3 semaines ou 1 mois de coupure, on s'est rendu compte que lors du début de la prise en charge, c'est-à-dire que l'athlète avait fait une saison, le cycliste haute, et puis on commençait la collaboration au début de la saison suivante. Entre-temps, il a coupé 1 mois, mais le bilan est fait à la fin donc, de la coupure. On avait 80% des athlètes qui sont encore en état inflammatoire. Donc, or, qu'est-ce qui se passe? On va dire, ils ont coupé, ils sont même reposés, ils sont frais, ils y retournent. Non, pas forcément. Les niveaux de turbulence générés par toutes ces perturbations dont on parlait tout à l'heure en introduction font qu'il n'est pas écrit, il n'est pas écrit que la personne va forcément s'adapter. Par contre, quand on fait tout un travail global, micronutrition, travail sur l'intestin, allègement des charges, gestion de stress, on n'a plus que 13% des athlètes qui sont en état inflammatoire quand ils reprennent. Donc, c'est les enjeux des accompagnements de haut niveau qu'on propose de faire, puisque j'ai quand même là, je suis en charge de l'accompagnement de la cellule recherche et performance de la Fédération française de hand, et je travaille avec l'équipe de France de volley qui est championne olympique. Donc l'idée, c'est d'aller chercher les critères qui vont faire que l'ensemble des mecs performants que tu vas avoir sur le terrain existeront le jour de l'objectif. Et que tu ne vas pas les perdre en route. Alors on dit, ce n'est pas de chance, ils se laissent beaucoup, etc. On dit, ouais, ils sont surmenés et tout. Ouais, mais on fait le constat. Mais comment on adapte les choses? Alors, sachant qu'il y a des calendriers qui sont imposés aussi, mais justement, ce n'est pas des problèmes, c'est des paramètres. Donc, quelle surveillance biologique on peut proposer? Quelle stratégie on met en œuvre? Comment on communique avec l'encadrement pour ménager certains athlètes ou pour, dans le cas des sports individuels, faire des impasses sur certaines compétitions? Moi, je crois que dans toutes les collaborations que je fais en triathlon, par exemple, ou en athlète, souvent, moi, je demande à savoir comment sont planifiés les objectifs, comment est conçu la saison, avant toute chose, pour voir s'il y a du sens ou si déjà on est dans du grand n'importe quoi. Et dans le trail, c'est absurde. Il y a des gens qui préparent 6 objectifs par saison et ils sont tout le temps en phase spécifique jusqu'au jour où on raye leur nom des listes des coureurs. Donc ça, ouais, c'est...
T'as Casquette Verte qui est assez connue, fait un ultra trail tous les mois et qui, pour s'entraîner, court 3 heures tous les jours en se disant que c'est sa dose d'entraînement, d'entretien, pardon, et que ses entraînements, c'est ses ultras une fois par mois. Ouais. Et justement, qu'est-ce que tu peux suivre comme facteur pour bien jauger ce stress métabolique? Je sais que, par exemple, tu as la variabilité de la fréquence cardiaque qui a été pas mal à la mode pour essayer de prévenir le surentraînement, ou même la fréquence cardiaque au repos le matin, où tu peux dire que s'il y a des fluctuations, donc dans le cas de la fréquence cardiaque au repos à la hausse ou dans le cas de la variabilité de la fréquence cardiaque à la baisse, tu peux suspecter une difficulté de récupérer correctement. Mais ça dit rien sur potentiellement... ce qu'on a dit sur les dosages sanguins, notamment sur toutes les carences qui peuvent commencer à arriver, notamment en magnésium, en zinc, en coenzyme Q10. Ouais.
David, ce n'est pas la carence le plus gros problème. Je vais prendre un exemple pour illustrer ça. Imaginons que j'ai deux équipiers d'un même club qui fassent tous les deux du 1500, qui viennent me rendre visite l'un après l'autre. Le premier arrive, il me dit, voilà, mon record perso est à 4,15. Cette année, je n'ai pas fait mieux que 4,30, je suis fatigué, je ne récupère pas bien. Donc, moi, il me fait beaucoup de peine. Je me dis, putain, 1500, 4,30, il court à 20 à l'heure. Effectivement, je compatis à sa souffrance. Mais pour autant, tu cherches, tu vas trouver un déficit en fer ou autre. Tu vas voir qu'il a peut-être mal organisé sa charge de travail et tu le remets en forme et puis tu envoies un mot pour te remercier. Il y a son copain qui arrive après qui dit, voilà, je suis coureur de 1500, je vaux 4-16, c'est mon meilleur chrono. Ça fait 6 mois que je suis arrêté, j'en peux plus. Là, tu es dans des problématiques immunitaires, hormonales, c'est un autre niveau, c'est un autre ordre de grandeur. Donc oui, le déficit est un élément qui contrarie la performance optimale, mais les niveaux de désadaptation qu'on rencontre, ils sont, voilà, le point de départ, le point de désadaptation, souvent, il est immunitaire. C'est-à-dire que moi, j'ai tendance à dire aux athlètes, quand l'immunité va, tout va. À partir du moment, on sait que le sport de niveau, c'est un modèle expérimental où on peut rendre malade quelqu'un qui n'a aucune raison de l'être, tout en cascade va en découler, que ce soit le stress oxydant, l'inflammation, les problèmes cognitifs ou autres. Et donc, effectivement, quand on regarde une mesure de variabilité de la fréquence cardiaque, on ne sait rien de l'immunité.
Et donc, qu'est-ce que tu regardes sur l'immunité ?
Ah ben, ça va dépendre des situations, ça va dépendre des cas, ça fait un peu partie de ce que j'appelle l'expertise optimale. Mais l'historique de l'athlète, ce qui lui arrive. On peut regarder indirectement des facteurs qui contrarient ces éléments-là. On va regarder l'apport énergétique à l'effort, on va regarder certains déficits, on va regarder l'état de sa flore intestinale, on va regarder le niveau de stress réel, puisque le stress via le cortisol est quand même un gros perturbateur du système immunitaire. On va regarder s'il y a eu des candidoses qui ont proliféré, on va regarder pas mal de choses en fonction, comment dire, j'ai un algorithme en fait où j'ai plusieurs options qui vont se présenter à moi en fonction des informations que je recueille, que ce soit sur des questionnaires ou à travers l'anamnèse de l'athlète. Et en gros, je vais choisir plutôt quelles sont les options les plus vraisemblables. C'est comme si tu avais un peintre qui avait 200 couleurs à sa disposition, il ne va pas s'amuser à utiliser toutes les couleurs tout le temps. Il va se dire, là, par rapport à ce que je vais faire, je vais plutôt aller dans cette direction-là ou tenter l'autre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas une systématisation d'accompagnement, mais il y a une modélisation de la manière d'y réfléchir. Et c'est pour ça que je dis aux gens, ce qu'on fait avec l'un, ce n'est pas forcément ce qu'on va faire avec l'autre. Ça dépend du contexte, ça dépend de tous les éléments qu'on a, et c'est évolutif. C'est-à-dire que les gens disent, mais pourquoi tu ne demandes pas les mêmes marqueurs chez le même individu d'un moment à l'autre ? Ben, parce que la situation évolue, et j'essaie de... Comment dire ? Ce qui détermine la pertinence d'un bilan biologique, c'est d'avoir identifié la question qu'on se pose, et la meilleure manière d'y apporter une réponse. Tu parlais des acides gras, on peut parler de l'immunité. Avant d'aller identifier des bilans, moi je dis souvent, quelle est la question qu'on se pose, à laquelle on a vraiment besoin d'avoir une réponse, et face à laquelle on est démuni. Bon. Et c'est là que la biologie va t'amener des informations, mais parce que tu as déjà entrepris une réflexion. Quelqu'un qui dit, je ne sais pas ce que vous avez, on va faire un bilan, ça fait 12 pieds, on va faire un alexandrin, on va dire vite, 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 il faut se barrer en courant. Parce que on peut doser 1000 marqueurs, si on veut, et les anomalies qu'on retrouve ou les valeurs anormales qu'on retrouve, si elles ne sont pas mises en perspective avec l'état du patient, certaines anomalies vont être secondaires. Ah, vous manquez de vitamine D, vous êtes épuisé. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. D'autres seront, d'importance moyenne dans la problématique rencontrée, et d'autres sont vraiment cruciales. Et donc, si on n'a pas une compréhension de la situation, on va mettre sur le même plan toutes les anomalies qu'on observe, en disant qu'on est systémique parce qu'on regarde plein de marqueurs. Or, on n'est pas systémique en regardant plein de marqueurs, on est systémique quand on arrive à hiérarchiser des informations et à leur donner une cohérence. Tu vois la différence? Et c'est pour ça que ce n'est pas si évident de faire ce genre de travail.
Ben c'est ça qui donne de l'importance à ton métier. Donc, encore heureux, j'ai envie de dire. Et forcément, quand tu fais du sport, même dans un état d'équilibre parfait, tu crées du stress oxydatif, tu crées de l'inflammation. Et puis, potentiellement, je me souviens que tu avais montré dans une étude, enfin que tu avais parlé d'études sur lesquelles on voyait justement une attaque un petit peu de la perméabilité intestinale, etc., lors de la pratique sportive. Comment est-ce qu'il n'y a quand même pas des stratégies, des nutriments qui peuvent prévenir, améliorer ça? Je t'ai notamment vu parler de la grenade là, dans le dernier Sport et Vie.
Ouais, c'était une commande d'éditeur. Hein. C'est Jules, il m'a dit, ah, tu pourras pas faire un truc sur la grenade. Alors, ça fait partie typiquement des épinutriments, hein, l'acide élagique et d'autres, les pucanalagines qu'on trouve dans la grenade. Mais pour revenir à ce que tu disais, c'est pas le sport qui contribue au stress oxydant. C'est ce que j'explique dans le bouquin, c'est qu'en fait, sur ce sujet-là, on se rend compte qu'il y a des sportifs qui présentent un niveau de stress oxydant important, alors que leur niveau de pratique et leur alimentation ne les différencient pas des autres. Et en fait, le seul élément qu'on peut trouver, enfin, il y en a deux qui peuvent jouer un rôle majeur sur la majoration du stress oxydant. Le premier, c'est des perturbations immunitaires. Ça, je l'ai établi, je le montre dans le livre. Et puis le deuxième, malgré tout, c'est aussi une exposition répétée à l'altitude. Donc, c'est pour ça qu'il faut garder les choses avec prudence. Et l'inflammation en découle. Et quand tu parles de perméabilité intestinale, le problème, ce n'est pas la perméabilité intestinale en tant que telle, puisqu'on sait que ça survient chez tout le monde à l'effort, même de manière, souvent de manière asymptomatique. C'est comment notre organisme, notre système immunitaire est amené à répondre à certains éléments qui rentrent dans ces conditions-là. C'est pour ça que le même phénomène d'hyperperméabilité chez certains, bah, c'est les messieurs Jourdain de l'hyperperméabilité, ils savent pas qu'ils en font. Et puis, il y en a d'autres qui se plaignent de douleurs au niveau du ventre, voire qui ont des problèmes articulaires, et chez qui on trouve le phénomène d'hyperperméabilité. Donc, c'est pas l'hyperperméabilité le problème, c'est l'hyperperméabilité, entre guillemets, qui tourne mal. Et qui tourne mal, pourquoi? Parce qu'il y a des perturbations immunitaires.
Donc, on en revient à la capacité ou non du système immunitaire à reconnaître les protéines du soi, des protéines du non-soi.
Ouais, et à répondre de manière appropriée. C'est-à-dire qu'il y a trois phénomènes qui font ce qu'on appelle un dysfonctionnement immunitaire, c'est un terme un petit peu barbare et pompeux. C'est un, la qualité de la cible, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on réagisse contre quelque chose qui n'est pas un authentique danger, hein, et c'est toutes les problématiques d'auto-immunité, de fertilité, d'allergie, où on réagit contre quelque chose qu'on ne doit pas éliminer. Deuxièmement, c'est l'ampleur de la réponse, trop forte ou trop faible. Si c'est trop fort, en fait, des inflammations qui persistent à distance de l'événement infectieux, hein, les gamins qui font un rhume et qui ont après des rhinites, des trucs qui traînent, traités à la cortisone. Et inversement, quand la réponse immunitaire est trop timorée, bah le problème auquel on est confronté persiste et peut même se développer. Et puis troisièmement, c'est la durée de la réponse. C'est-à-dire que si elle s'arrête trop tôt ou si elle dure trop longtemps, dans toutes ces situations-là, on va avoir des problématiques inflammatoires. Et ces trois critères-là sont sous la dépendance d'un certain nombre de familles différentes de lymphocytes, hein, c'est ce qu'on regarde sur les bilans. Il y en a qui sont là pour s'assurer qu'on ne se trompe pas, qu'on n'attaque pas quelque chose qui est du soi. Il y en a qui permettent une réponse rapide et proportionnelle. Et dès qu'il y a des anomalies qui surviennent sous l'influence de facteurs environnementaux, on n'est plus à même de pouvoir répondre comme il faut à ces situations-là qui deviennent problématiques. On a des exemples pour illustrer ça. Je pense celui de la maladie de Lyme, mais je pourrais en prendre un autre. Typiquement, on sait qu'il y a des bûcherons alsaciens qui se font, dans les Vosges, qui se font piquer par des tiques à longueur de journée qui ne font pas la maladie de Lyme. Par contre, il y en a un jour qui va avoir un gros stress et il va décompenser la pathologie à ce moment-là parce que c'est un petit peu comme un match de rugby. Si tu joues à 13 contre 15, tu peux perdre contre tout le monde parce que tu es démuni. Donc, l'histoire immunitaire et l'histoire des perturbations en général, pour moi, c'est la recherche du point de rupture. En fait, il y a trois étapes dans la pathologie. Il y a l'adaptation, il y a la suradaptation et il y a la désadaptation. Et le point de bascule, c'est quand un élément supplémentaire qui n'est pas forcément lourd rajoute sa contribution aux sollicitations, aux agressions et qui font que justement, on ne peut plus mettre en œuvre l'hormèse dont tu parlais tout à l'heure de manière optimale. Et donc, bien comprendre que c'est le point de bascule, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le barrage. Tu vois, c'est typiquement ça.
Ouais, c'est un peu comme si on marchait toujours sur une ligne de crête, tu vois, en parfait équilibre, et puis après, il suffit d'une goutte d'eau et puis tu tombes dans le vide, quoi.
Ouais.
Et d'ailleurs, c'est pour ça que peut-être, d'une certaine façon, plus tu vis une vie intense, que ce soit sur le plan sportif, que ce soit sur le plan professionnel, plus, entre guillemets, tu dois faire attention quelque part aux différentes pollutions que tu peux avoir, pollution de l'air, mais aussi peut-être psychologique, sonore, etc. Les pesticides, machin, enfin, tout type de pollution, et puis la qualité de ton alimentation, etc. Parce que le moindre petit changement, en fait, te fait basculer de l'autre côté, quoi.
À ton avis, quel est le type d'agression face à laquelle on a le moins de facilité à faire fonctionner le système de l'hormèse?
Bah, psychologique.
Absolument.
C'est pour ça que on a tendance à ressasser, on a une tendance naturelle à ressasser et à vouloir refaire le monde.
C'est pour ça qu'il faut travailler sur ces approches de compréhension des modalités de stress et de mise à distance. C'est-à-dire que ça amène à écarter certaines collaborations ou certaines relations, ça amène à travailler sur le contexte dans lequel on évolue. Et moi, j'explique souvent aux gens qui disent « j'ai fait un burn-out, je travaille trop ». Et je dis « il y a deux questions qui se posent ». La première, c'est que ce n'est pas forcément le travail qui tue, mais c'est le stress dans lequel on le fait. Et la deuxième, est-ce qu'un jour, vous avez reçu un recommandé qui vous expliquait la différence entre travailler et trop travailler? C'est-à-dire que là, on est déjà dans quelque chose qui est absurde, puisqu'on part du principe qu'on travaille trop sans avoir déjà jamais défini nulle part ce qui était un niveau de travail normal. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est très important. Il y a des gens pour qui leur valeur, c'est de se réaliser dans ce qu'ils font. Et premier problème, c'est que ça crée du stress vis-à-vis d'eux-mêmes. Et deuxième problème, ça crée du stress vis-à-vis de ceux qui n'ont pas le même câblage et qui vont leur reprocher leur niveau d'exigence. Moi, j'ai eu le cas d'un patient qui était venu me voir après un burn-out. Il venait de la Meuse, il avait traversé la France à l'époque, j'étais en France, et sur Nîmes. Et il me dit, bah, de toute façon, j'étais pilote de ligne, je connais mon gros défaut qui m'a pourri ma vie, je suis trop exigeant. Du coup, j'ai dit, OK, vous avez tout à fait raison, vous auriez mieux fait de vous écraser avec votre avion et vos passagers. Il dit, ouais, mais là, c'est différent, c'est au travail. Je dis, c'est pas différent, vous êtes exigeant. Le seul problème, c'est qu'il y a des contextes où c'est accepté par la société ou d'autres où ça l'est moins accepté. Est-ce qu'on va dire à Karabatic, est-ce qu'on va dire à Djokovic qu'il est trop exigeant? On va trouver des vertus à son exigence. Mais quand les gens sont confrontés à vous, qu'ils n'ont pas le même câblage, votre exigence devient un défaut et on vous le reproche sous forme de stress. Donc, bien comprendre que si les personnes travaillent beaucoup, c'est souvent qu'elle a un niveau d'exigence, qu'il peut y avoir du stress par rapport à ce qu'elle attend d'elle-même, mais souvent, c'est pour se rassurer par rapport aux attaques dont elle fait l'objet. Donc, dire aux gens qui travaillent trop, il y a une partie d'eux qui entend, oui, je suis fatigué, mais une partie d'eux qui n'est pas d'accord, parce que si je ne travaille pas autant, je vais faire de la merde et ça ne va pas me convenir. C'est le facteur de stress, il est venu dans l'opposition qui est entre une partie de moi a envie de moins travailler et une partie de moi déteste ça. Donc, et c'est pour ça, travailler sur le stress, c'est aussi identifier ça, dire aux gens, si quelqu'un qui bosse beaucoup, faire burn-out et que tout le monde lui répète « Mais tu bosses trop, tu bosses trop, tu bosses trop. » Et il s'est dit « Mais moi, le sens de ma vie, putain, c'est ce que je fais dans mon boulot, c'est ce qui fait que j'ai une place ici, c'est ce qui m'aide à gérer mon angoisse de mort, je suis utile. Ne venez pas me faire chier à me dire que j'en fais trop. C'est juste qu'à un moment donné, je veux le faire dans la paix. »
Et donc, en fait, cette dualité, parce que ça m'intéresse particulièrement, je l'ai ressenti aussi à certains égards, notamment par rapport au fait que j'ai une tendance probablement hyperactive et que j'aime faire beaucoup de choses, elle vient en fait de ta nature profonde qui se retrouve confrontée aux attentes de la société qui peuvent être différentes.
Absolument, ça vient, je pousse un peu plus loin, parce que comprendre le sens des choses, c'est ce qui permet de donner des solutions. En fait, ce qui détermine l'activité des hommes et des femmes, c'est la gestion de l'angoisse de mort. Et il y a à peu près 80-90% des gens, plus ils font comme les autres, plus ils sont rassurés. Quelque part, si on les fait sortir des sentiers battus, ils sont en souffrance, ils meurent.
Et c'est le biais social, ça.
Ouais, et il y a 10% des gens, qu'on va appeler monsieur et mademoiselle, et pourquoi, qui ont un cerveau en arborescence et tout, et qui, eux, pour se réaliser, ont absolument besoin d'avoir un projet qui donne du sens à leur vie. Et si on les en empêche, c'est pas seulement qu'on les embête, c'est qu'on les fait mourir au sens symbolique. Donc, une fois qu'on a compris qu'on a éventuellement ce mode de fonctionnement, le travail majeur consiste à identifier les manifestations de stress qu'on va repérer chez les autres, de façon à ne pas se laisser contaminer par les autres. Parce que soi-même, on ne peut pas se changer, les autres, on ne peut pas les changer. Mais ce qui est important, ce n'est pas te laisser contaminer par le stress, c'est donner du crédit à des propos qui sont simplement là pour rassurer les autres par rapport au fait que la différence qu'on a, finalement, elle est acceptable ou pas.
Ok, donc là, il y a plusieurs choses qui se jouent. Il y a déjà l'acceptation de qui on est. Par exemple, tu vois, tu as la logique, par exemple, des intelligences multiples, où tu prends conscience que tu as différents types d'intelligences, qu'elles ont toutes besoin d'être nourries, et que ça peut expliquer le fait que tu aies besoin de faire plusieurs choses différentes et variées pour chacune les nourrir suffisamment et pas générer de frustration interne. Ça, c'est une première chose.
Donc, mais c'est pas rien, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie d'idée que t'en fais trop ici et ça. Tu emploies le terme hyperactif. Hyperactif, c'est un. Soit il y a un psychiatre qui a dit « t'es hyperactif, t'as des gros problèmes de dopamine et il faut te soigner », soit c'est un jugement ou qui reprend une terminologie psychiatrique de la part des gens qui ne sont pas psychiatres. Et donc, c'est déjà quelque chose de péjoratif par rapport à un fonctionnement qui n'est pas comme celui des autres.
Exactement. Donc ça, déjà, c'est une acceptation de soi-même.
Ouais.
La seconde chose, si j'ai bien compris, ça serait potentiellement de choisir aussi son environnement direct, les gens avec qui on travaille, les gens avec qui on interagit, soit pour leur proposer de mieux comprendre qui on est de telle sorte à ce qu'il y ait moins ce type de remarques, soit dans le cas contraire, de carrément les évincer, parce qu'on dit qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie, que notre monde de pensée nous constitue et nous construit en tant que personne. Donc probablement, si on a des gens qui systématiquement génèrent ce genre de pensée dans notre tête, eh bien, on crée nous-mêmes un environnement de négativité d'une certaine manière, une dualité qui ne devrait pas exister.
Ou alors, on anticipe ce qui peut se passer, puis on sait à l'avance qu'ils vont avoir ce genre de réaction, et puis on s'en fout.
Ok. Est-ce qu'on peut vraiment s'en foutre?
Alors oui, parce qu'il y a deux choses importantes dans le stress. Tu as la blessure cognitive et la blessure émotionnelle. C'est-à-dire que, je vais prendre un exemple, moi, qui me concerne. Je sais que, dernier exemplaire de mon bouquin, j'ai envoyé ni à mon frère ni à ma sœur, parce que à chaque fois que je fais un bouquin, Je sais très bien qu'il y a une partie d'eux qui dit ah, c'est super qu'ils fassent ça et tout, puis une partie d'eux qui dit il fait chier parce que nous, on ne fera jamais ça et c'est pas juste et tout. Mais évidemment, c'est pas avouable. Donc, tu as des comportements de stress qui se manifestent en lutte ou en fuite, du genre, de toute façon, ton bouquin, il est rangé dans l'étagère, enfin, tu vois, des trucs. Et si tu ne comprends pas que ce qui se passe, c'est l'expression du stress, tu souffres, parce qu'en fait, il y a quelque chose qui est injuste, c'est quand même, tu pourrais l'ouvrir, et ce qui est injuste, c'est, tu me fais mal. Donc, si on comprend le sens des choses, c'est-à-dire qu'on donne du sens, que notre cerveau comprend pourquoi ça se passe, tu n'as plus de blessure émotionnelle derrière.
Quel travail toi t'as fait justement pour comprendre tout ça, comprendre qui tu es, apprendre à être mieux connecté à tes émotions et à savoir ce qui se joue chez les autres?
J'ai pas mal travaillé sur les modes mentaux de Jacques Fradin, mais après j'ai poursuivi mon cheminement. Je suis un peu autodidacte, entre guillemets, sur beaucoup de choses, mais j'ai parfaitement compris ça. Puis j'ai toujours eu une distance naturelle par rapport à des choses pour me préserver, parce que j'ai eu des situations extrêmement stressantes. Après, des techniques comme la méditation, ça en fait partie. Et puis avec l'âge, on s'emmerde plus à faire des choses pour faire plaisir aux autres. On fait ce qui va bien pour nous en partant du principe que mieux on est aligné, plus c'est agréable pour les autres. Et ça, c'est une réalité aussi. Moi, j'ai plus de bagnole, j'ai plus de télé, j'écoute plus la radio. Ce qui fait que si demain il y a la décroissance, je continuerai d'aller me promener dans la neige en sortant de chez moi. Ça ne me pose pas de problème. Bon. Mais c'est un long cheminement. Mais d'abord et avant tout, quand on comprend cette différence de fonctionnement qu'elle est fondamentale et que c'est jamais facteur de contexte paisible chez les autres, mais que c'est un facteur de stress, bah évidemment, on peut travailler là-dessus. Et moi, quand je parlais de coaching global tout à l'heure, identifier les modes de fonctionnement de certains sportifs, c'est les libérer de ces peurs, de tout ce qui n'est pas rationnel dans leur comportement. Je rajoute de l'entraînement, je me prouve que je peux le faire, je suis fatigué, je suis blessé, je m'entraîne quand même. Non! Oui, mais si je ne le fais pas, qu'est-ce qui va m'arriver? Donc, si on les libère de ces pensées parasites, ils font ce qui est nécessaire et ils fonctionnent bien mieux. Moi, je vois, il y a beaucoup d'athlètes que j'ai accompagnés au départ en micronutrition, puis petit à petit en mêlant un petit peu du reste, sur 2-3 années, avec une diminution de 20 à 30% de la charge d'entraînement, avec une amélioration des résultats, mais surtout, un épanouissement de l'individu qui prenait du plaisir à faire des choses parce qu'ils sont là. Ça a du sens ce qu'ils font. Ils font des choses parce que c'est leur manière à eux-mêmes d'exister. Et si on se dit, bah, de toute façon, il faut, y a qu'à, etc., il y a une espèce de dissonance cognitive. Et le seul moyen qu'ils ont de se rassurer, ce que je disais tout à l'heure, c'est par des quantités d'entraînement et par le contrôle sur l'alimentation. Les troubles de comportement alimentaire, c'est une manière de gérer l'anxiété liée à des stress qu'on ne contrôle pas. Donc, moi, évidemment, je m'intéresse à tous ces aspects-là. Et à la nutrition du cerveau pour avoir les neurotransmetteurs. Mais si on se contente de faire l'alimentation du cerveau et qu'on oublie pourquoi il est sollicité, c'est comme si on mettait des rustines sur la coque du Titanic et qu'on disait, messieurs, dames, dans 3 jours, on arrive à New York, continuez de danser. Ça suffit pas. Ça suffit pas. Et après, on peut utiliser les techniques de bilan, tout ce qu'on veut. Mais le point de départ, c'est pourquoi on en arrive là? Pourquoi on en arrive là? Et qu'est-ce qui se joue pour que la personne soit en souffrance?
En fait, quelque part, quand tu vois des bébés, c'est un peu comme si c'était un disque dur vierge, et ils vont se construire par exemplarité en regardant les autres. Ils vont se créer des modèles par rapport à ce qu'ils voient, à ce qu'ils observent. Et petit à petit, d'une certaine façon, on est tous conditionnés aux injonctions de la société, et on se crée tous des obligations, des peurs, des impressions de la façon dont on devrait vivre. Et petit à petit, j'ai l'impression qu'on en vient à ne plus écouter notre cœur, à plus
Bien
écouter
absolument.
ceux qui nous inspirent. Tu parlais d'alignement tout à l'heure. Tu vis souvent une vie qui est complètement désalignée par rapport à ta nature profonde. Mais d'un autre côté, ta nature profonde te fait peur parce qu'elle n'est pas forcément concordante avec les
Les valeurs.
injonctions que tu as accumulées tout au long de ta vie et portées par la société, par la masse, par ces 80% dont tu parlais un petit peu plus tôt. Alors qu'en réalité, et moi c'est un truc que j'ai compris récemment et peut-être que je ne l'ai même pas totalement compris, mais parfois tu vois, face à des décisions qui peuvent justement heurter d'autres personnes, tu te dis, bah, je ne devrais pas les prendre. Et en réalité, du coup, tu vis pour les autres plutôt que de vivre pour toi. Alors que, en se posant une simple question, tu peux être quasiment sûr de prendre toujours les bonnes décisions. Je pense, c'est est-ce que je suis mon cœur? Est-ce que je suis aligné avec mon cœur, avec ce que je ressens? Est-ce que c'est quelque chose que je regretterai sur mon lit de mort? Et ça, en fait, je pense que voilà, si tu suis ton cœur, tu peux jamais te tromper.
Les
Mais c'est quelque
injonctions,
chose qu'on
ouais.
n'a plus l'habitude de faire.
Les injonctions, c'est typiquement la modalité de communication du système limbique, donc dans le cadre du stress. Hein, quand je parlais de l'absurde du stress, pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. Papa, c'est quoi trop? Ah, toi, ta gueule. Éviter de grignoter la journée. Je m'en fous, je grignote la nuit. Si tu peux toutes les prendre. C'est des injonctions sur l'autoroute. Respecter les distances sociales à cause du Covid. Bah, de toute façon, il faut que tu aies au moins 20 mètres par rapport au véhicule qui est devant toi. Si tu lui rentres dans le cul, tu ne vas pas forcément être contaminé par le Covid. Si tu veux, si tu réfléchis 2 minutes au sens des injonctions, c'est que de l'absurde. Donc, c'est une société qui gère son stress en imposant finalement des règles qui permettent de gérer l'angoisse de mort collective.
Oui, mais quand pendant 30 ans ou 40 ans, tu construis ta vie sur ces modèles-là,
À
comment
toi,
est-ce
peut-être toi,
qu'après
mais
tu
pas
gères
moi.
la... Oui, ben, peut-être pas toi aujourd'hui, mais quand tu es enfant, forcément, tu vois, par l'école, par l'université, pour ceux qui y vont, etc., tu crées forcément une forme de carcan, de conditionnement. Comment est-ce qu'après, tu es capable de gérer cette dualité entre la personne que tu étais et qui en fait était juste une succession de masques imposés par la société, et ta nature profonde qui commence à émerger et qui a envie de vivre par elle-même, mais qui s'oppose peut-être à certains de ses préceptes.
Alors, la question, c'est qu'il y a des règles qui sont évidentes pour le bien vivre ensemble et qui se perdent au milieu de celles qui peuvent être pas forcément pertinentes. Et typiquement, qu'est-ce qui fait qu'on va pouvoir les intégrer? C'est qu'elles aient du sens. Et moi, je dis souvent, ah, t'as pas pourquoi il faut, je sais pas, moi, se laver les dents après avoir mangé. Je dis, tu as raison, il faut pas se laver les dents. Parce que l'idée, c'est que tous les dentistes faisaient beaucoup de travail. Qu'est-ce que tu en penses? C'est-à-dire que dans les modes de communication, le questionnement ouvert met la personne en mode intelligent. Et de ce fait, il n'y a aucune personne autant capable d'appliquer des règles qui aient du sens pour la société que s'il en comprend le sens. Donc, avant de mettre des injonctions, ce qui serait bien, c'est de dire, à votre avis, dans une période où il y a beaucoup de microbes qui circulent, qu'est-ce qui pourrait être intéressant de faire dans l'intérêt de tout le monde? C'est-à-dire que tu vas arriver à la même chose, tu vois, bah dans mon domaine, je reviens à la nutrition, quand je constate qu'une personne, il serait utile qu'elle arrête le gluten. Bon, je vais lui dire, faut plus manger du gluten. Si tu as un niveau de stress chez cette personne, tu lui mets une injonction qu'elle va peut-être pas être capable de suivre, donc ça touche à son ego. C'est imprévisible, c'est nouveau, elle ne peut pas contrôler le truc, on lui crée du stress, et elle va se mettre soit en lutte, ouais, mais d'abord c'est pas possible, du gluten partout. Soit en fuite, elle dit rien, elle revient pas, soit en inhibition, la personne, elle va se soumettre, par respect des règles, en souffrant. Donc, moi, comment je fais les choses, je leur explique ce qui se passe, tu vois, je rentre dans le détail de la physiologie, je fais, et à votre avis, par rapport à tout ce que je vous ai expliqué, qu'est-ce qui serait intéressant de faire? Ah, ben, il faudrait que j'arrête le gluten, mais c'est difficile. Ok, en quoi c'est difficile? Ben, vous ne vous rendez pas compte, il y en a partout. Ah oui, je suis entièrement d'accord avec vous, si vous ouvrez votre réfrigérateur et que vous enlevez les aliments qui contiennent du gluten, qu'est-ce qui disparaît? Ah ben pas grand-chose. Donc comment vous pouvez expliquer que vous venez me dire qu'il y en avait partout, puis qu'en même temps ça change pas grand-chose dans ce que vous allez faire? Et je leur explique qu'ils sont en mode de stress. Pourquoi? Parce que le gluten c'est le pain, et le pain c'est un aliment sacré qui structure la société. Donc à partir du moment où on dit aux gens que quelque chose qui est un aliment qu'on donne lors de la confession, ou de la communion, tu vois par exemple, il pourrait être susceptible de tuer certaines personnes, tu détruis un des éléments de fondement de la croyance collective, de la gestion de l'angoisse des morts. C'est très très ancré, c'est-à-dire que quand on commence à toucher au pain et à toucher au lait, les réactions qui peuvent... Je ne parle pas de justification théorique et nutritionnelle, je parle d'un point de vue anthropologique, tu touches à des aliments qui ont une valeur sacrée, donc il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit accepté, comme si tu disais aux gens, faut que vous arrêtiez de manger des haricots verts jusqu'à la fin de votre vie. Tu vois, il se passe autre chose. Et si tu n'as pas conscience de ça et que tu mets des injonctions par-dessus, bah tu reproduis dans les approches alternatives ce que l'on reproche aux approches conventionnelles.
Ouais, j'aime beaucoup cette façon inversée de communiquer qui pousse les gens à faire appel à leur propre intelligence et qui leur donne l'impression de prendre la décision par eux-mêmes plutôt qu'elle leur soit imposée par un élément extérieur. C'est très très puissant. Tu t'es formé à ça spécifiquement ou c'est toi qui t'es amusé à développer ces traits d'esprit par passion pour la langue?
J'ai beaucoup travaillé par moi-même pour faire ça, parce que mais si tu veux, dans mes études, j'ai travaillé sur la neurobiologie, j'ai essayé de comprendre les modalités de communication, et c'est vrai que quand tu dis leur faire prendre la décision par eux-mêmes, ça devrait être la règle, c'est-à-dire qu'on ne décide pas à leur place, quand on leur dit arrêtez ça, c'est nous qui décidons sans leur demander s'ils sont d'accord. On part du principe qu'ils sont d'accord parce qu'ils sont motivés, que la situation justifie, mais il ne suffit pas d'être motivé pour arriver à faire quelque chose, parce que tu peux avoir des freins. Tu peux avoir des réticences, tu peux avoir des peurs. Donc, si tu restes sur ce mode de communication-là, tu te rassures sur le fait que tu es un bon thérapeute parce que tu as conseillé ce qu'il fallait. Et si le patient ne suit pas le protocole, il se fait engueuler. Parce que quand un médicament ne marche pas, on change de médicament. Quand un régime ne marche pas, on engueule le patient. Donc, ce qui veut bien dire qu'on touche à la toute-puissance du thérapeute si on, le patient ne met pas en application des principes ou des recommandations qui sont théoriquement justifiées, mais qui ne sont simplement pas formulées dans la bonne langue pour que ça puisse être entendu. Bah, tu vois, par exemple, sur les régimes d'éviction, j'ai très, très peu de patients qui ne les mettent pas en place quand je leur conseille. Par contre, je mets un temps conséquent, je prends beaucoup de précautions sur la manière de les faire amener à le formuler s'il y en a besoin.
Ouais. Ouais, je comprends tout à fait. Et je reviens un petit peu en arrière pour un sportif qui n'est pas un sportif de haut niveau. Comment est-ce qu'il peut s'auto-réguler de façon intelligente, seul ?
Alors, s'auto-réguler sur, par rapport à quoi ?
Par rapport à sa charge, à son volume d'entraînement, justement, pour quantifier ce stress qui est plus difficile à appréhender, a priori ?
Alors, moi, ce que je conseille déjà, c'est... Bon, déjà, on essaie de voir son niveau de stress tout seul, ce n'est pas forcément évident, mais... Moi, je vois quelques athlètes qui fonctionnent en travaillant à côté. C'est un, quels sont les jours où je peux m'entraîner ? Il y a des jours où je ne peux pas m'entraîner, je ne vais pas aller prendre la frontale à 5 heures du matin. Hein. Ou alors, je le fais exprès parce que je me mets dans une condition de sollicitation une fois en passant. Moi, ça peut m'arriver, ou une fois le soir, dire partir à la frontale. Mais je dis, c'est parce que j'en ai vraiment envie. Et puis, tiens, ça va déstabiliser l'organisme. Mais le matin d'après ou le soir d'après, je reste bien au chaud, tu vois. Bon, typiquement... percevoir ce qu'il en est au niveau de ça, au niveau de fatigue. Et il y a, et moi souvent, il y a une phrase que j'aime bien comment lancer aux athlètes, c'est leur dire l'obsession enferme et la passion libère. C'est-à-dire que la manière dont on aborde l'activité physique, son sport, nous en dit long sur la justesse ou pas de l'engagement qu'on a. Typiquement, quelqu'un qui adore courir, puis on lui dit « Ah, le week-end prochain, je me marie. » Enfin, peut-être pas le week-end prochain, mais dans 2 mois, je me marie. Puis tu vois que ça tombe sur une course importante. La personne va dire « Bon, bah, tant pis, je la ferai l'année d'après. » Alors que l'autre, il va être pris à un stress important parce qu'il est tellement obnubilé par ce qui lui donne du sens qu'il n'est plus libre, finalement. Il n'est plus libre d'avoir un autre choix sans contrarier ce qui le passionne. C'est comme la musique. Moi, quand j'avais déménagé, je suis resté 2-3 mois sans pouvoir faire de musique. Ça me manquait, mais je ne suis pas allé me faire une crise de manque quelque part. J'ai dit, bon, OK, je vais m'organiser, je vais installer le matos, et puis une fois que je suis prêt, super. Donc, ça m'a manqué, mais ça ne m'obsédait pas, si tu veux. C'est cette différence entre l'obsession et la passion. Il y en a une qui libère et l'autre qui enferme. Et c'est à ça que l'athlète, si c'est s'analyser, s'observer avec honnêteté et recul, c'est à ça qu'il doit pouvoir faire la différence. S'il a cette capacité de se dire, ben, je peux m'arrêter à un moment donné parce que j'ai des contraintes dans mon boulot, j'ai des contraintes voilà, qui me posent problème. Tu vois? Et c'est vraiment comme ça qu'il faut se positionner, tu vois, sur cette prise de recul qui me paraît vraiment judicieuse.
Après, indépendamment de la passion, je pense qu'il y a aussi plusieurs types de profils psychologiques, notamment les profils un peu sérotoninergiques qui vont être très exigeants avec eux-mêmes. C'est remettre en cause leur système de croyances personnelles que de contrarier et de contrevenir à quelque chose qu'ils ont décidé de faire initialement.
Alors, les profils, moi, j'aime pas cette idée parce que ça sous-entendrait qu'il y a une prédisposition à être comme ça. Quand on connaît toutes les situations qui contrarient la synthèse de la sérotonine, état inflammatoire, insuffisance hépatique, problème de dysbiose, pour moi, souvent, les manifestations de manque de sérotonine, ce n'est pas l'expression d'un trait de caractère inné acquis à la naissance, c'est la manifestation au niveau émotionnel et cognitif des déficits et des situations de perturbation qui sont derrière. Ce que j'explique dans le bouquin sur le cerveau, hein, quand on sait, par exemple, je prenais les exemples de Zinedine Zidane et de Marie-José Pérec, hein, qui pour l'un marque 2 buts de la tête et 8 ans après assomme un Italien d'un coup de boule, et une autre qui a été championne olympique et qui fuit dans l'avion la veille de la finale. Donc, la vulnérabilité au stress, c'est vraiment lié à la sérotonine. Donc, si on avait vu la première partie de leur carrière, on aurait dit, ils ont une sérotonine qui marche super bien, c'est des profils dopaminergiques. Et puis, si on ne les connaissait pas et qu'on regardait juste la chute de leur carrière, on aurait dit l'inverse.
Oui, c'est toujours contextuel.
C'est uniquement contextuel. Les histoires de phénotypes, c'est une construction un peu fumeuse, quoi, parce que c'est comme ce qui est génétique, c'est héréditaire, c'est des phénotypes, c'est des tartes, ce que j'appelle des tartes à la crème. C'est-à-dire qu'on met tout là-dedans. Hein, c'est comme la préménopause avant la pré-préménopause et la pré-pré-préménopause. Il y a des mots tout faits comme ça qui rassurent, puisque la situation qu'on ne comprenait pas, on lui donne une explication qui passe par une terminologie qui lui est propre. Et du coup, on a plus à se poser la question de pourquoi je ne comprends pas, si ça échappe à mon contrôle. On retombe toujours dans le même truc. C'est-à-dire que ces modes de raisonnement, de profil, de préménopause, de. Tout ce qui rattache à une espèce de caractéristique qui serait universelle, c'est absurde.
Oui, ben on en revient un petit peu à ce que tu disais tout à l'heure, à ce besoin d'ordre, d'étiquetage qui nous rassure face à notre finitude et au fait qu'on ait du mal à accepter le fait qu'on va tous mourir un jour au final. Et d'ailleurs, peut-être que le fait justement qu'on ait, entre guillemets, peut-être perdu tous ces rites et toutes ces croyances liées à la mort, nous rend aussi beaucoup plus démunis. Tu vois, le fait d'avoir scientifisé la médecine et la mort, quelque part, nous a peut-être fait perdre une espèce d'illusion qui aurait pu nous porter et nous rendre plus sereins vis-à-vis de ça.
Ouais, sachant que pas mal de grands médecins ou de grands scientifiques ont gardé une certaine distance par rapport à ça. Hein. C'est ce que disait un des biologistes sur l'embryogenèse. Il disait... On a commencé à comprendre la partition, de la déchiffrer, mais on ne sait toujours pas qu'est-ce qu'il a écrite. Et c'est une manière de poser les choses sans être mystique, mais je pense qu'on manque effectivement d'une dimension un peu spirituelle et qu'il y a des autres manières d'aborder les choses. Et la vraie question, c'est de se dire, quand on est mort, qu'est-ce qu'on est après? Est-ce qu'on existe toujours à travers les autres? Est-ce que c'est important de le savoir, hein, parce que si tu as un accident de la route, tu meurs dans les 3 secondes, tu ne sais même pas que tu es mort et tu ne t'en souviendras plus. Donc ce que je veux dire, c'est aussi une question d'équilibre de neurotransmetteurs qui fait qu'on appréhende plus ou moins bien ce truc-là. Moi, personnellement, je me rends compte que plus je me rapproche peut-être de la date butoir, moins ça m'effraie, mais je n'ai pas envie que ça me fait plaisir d'y penser non plus, tu vois. Mais on n'est pas tous comme ça. Il y a des gens qui ont des angoisses chroniques, mais encore une fois, les neurotransmetteurs qui permettraient de gérer ce problème-là, on les fabrique plus ou moins bien en fonction du contexte, en fonction du niveau de stress qu'on peut avoir. Et donc, ce à quoi on faisait référence au début du podcast, c'est-à-dire tous ces facteurs environnementaux qui perturbent l'expression de nos gènes et au-delà de ça, toutes nos fonctions, nous rendent aussi beaucoup plus vulnérables à ces peurs-là.
Ouais, on a beaucoup parlé du coup de l'importance de manager son stress, notamment pour se prémunir de certaines maladies de notre siècle, comme le syndrome métabolique, les maladies cardiovasculaires, diabète, cancer, etc. Malgré tout, dans ton approche de l'épigénétique, de l'épinutrition, pardon, tu parles aussi d'épinutriments, des nutriments qui seraient essentiels pour la méthylation de l'ADN et donc pour le fait, donc je vais le dire de façon plus accessible, d'allumer ou d'éteindre certains gènes. Ouais. Est-ce que tu peux dire un petit peu lesquels sont importants et quels aliments est-ce qu'il faudrait promouvoir pour assurer
Il y en a un grand nombre. Il y a déjà toutes les molécules, tous les aliments qui contiennent des molécules de la famille des polyphénols. C'est une grande famille chimique complexe de molécules solubles dans les graisses et solubles dans l'alcool, hein, qu'on les met où on veut. Donc, que ce soit le chocolat, que ce soit le thé noir, le vin rouge, les fruits rouges. Il y a évidemment la curcumine qu'on trouve dans le curcuma, la quercétine qu'on trouve dans l'ail, l'oignon et la pomme. Il y a le resveratrol qu'on trouve principalement dans le raisin. Il y a les dérivés qu'on trouve dans le jus de grenade, l'acide ellagique ou autre. Il y a le glucose. L'insuffisance du glucose dans nos cellules permet l'expression de gènes qui participent à l'état inflammatoire. Donc, c'est un truc que j'évoque aussi dans le livre. Et donc, le zinc peut aussi faire ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de nutriments qui participent au contrôle des gènes. Ça, c'est la première chose. Et puis, l'épinutrition englobe aussi les nutriments qui permettent d'assurer une bonne hormèse, donc une bonne adaptation et même amélioration de nos aptitudes face au stress psychologique, face aux problèmes immunitaires, face à la pollution. C'est-à-dire que des nutriments comme l'acide rosmarinique qu'on trouve dans le romarin qui permet d'améliorer les capacités de notre foie à nous débarrasser des toxiques, ben indirectement, s'il réduit l'impact de ces toxiques, il nous protège d'influences néfastes sur notre épigénèse. Donc, c'est aussi des épinutriments d'une certaine manière.
Ok, donc du coup, le soir, tu te fais des petites infusions romarin?
Non, je bois un coup de rouge.
Est-ce que tu pourrais me partager un petit peu les petits hacks que tu utilises au quotidien pour exprimer pleinement ta vitalité et
C'est-à-dire...
repousser cette date butoir? Bah, des petites habitudes que tu as, qui sont le fruit de tes réflexions, de tes expérimentations
Ouais,
et qui te permettent d'être plus en forme. Tu as parlé un peu de méditation,
ouais,
tu parles de vin rouge.
Je médite tous les matins et parfois le soir aussi. Des petits déjeuners qui sont relativement riches en protéines, mais pas que. Hein. Il y a des œufs, des céréales, des fruits. Je mange beaucoup bio. Évidemment, je bois un verre de vin rouge. Bon, ça dépend en moyenne. C'est-à-dire qu'il y a des jours où je n'en prends pas, donc il y a des jours où je rattrape. Je consomme régulièrement du chocolat. J'essaie d'avoir un repas où il y a plutôt des combinaisons de protéines végétales. J'ai une activité physique régulière. Compte tenu de l'âge, maintenant j'alterne travail cardio, tout ce qui est pilates, tout ce qui est travail de force. Je varie les activités. Je m'accorde des espaces de respiration où je fais rien, même si ma tête travaille. Je vis sans télé, sans radio, j'écoute de la musique et j'essaie de me débarrasser de Facebook et de WhatsApp rapidement. C'est-à-dire que j'essaie finalement de me dire. Si j'ai ça, qu'est-ce que ça m'apporte? Et si je ne l'ai plus, qu'est-ce que ça m'amène? Et bien, les deux ou trois fois où j'ai perdu le téléphone, où j'avais plus tout ça, je me dis, oh, je retrouve la liberté que j'avais quand j'avais 20 ans. Et on se dit, en fait, qu'est-ce qu'on apprend de fondamental à travers ces médias-là, si sinon qu'on est une espèce aussi de compulsion angoissée à être dans le monde des autres pour gérer l'angoisse de mort collective. Et franchement, maintenant, plus ça va, moi, ça me passionne. Alors, ce n'est pas des positions dogmatiques ou des positions postures, c'est que moi je sens que j'ai passé 60 ans, je dors 9 heures par nuit, j'ai pas pris de médicaments de toute ma vie, mon médecin traitant il sait même pas à quoi je ressemble, d'ailleurs maintenant je suis parti, je l'avertis, et il me dit je sais pas qui vous êtes, tu vois, c'est des trucs, c'est des démarches, et surtout je crois que ce qui est fondamental, j'ai plein de projets, j'adore la vie, et la dernière fois je me suis ennuyé, j'étais pas né, donc ça c'est tout un travail où j'ai toujours fait les choses qui étaient en accord avec mes besoins. Et j'ai jamais fait des choses pour l'argent, pour la gloriole, j'essaie toujours d'être aligné. Et ça, je veux dire, c'était inné. Et puis je l'ai compris après coup. Mais j'ai toujours été aligné. Et on m'amènera pas à un endroit où j'ai pas envie d'aller.
Justement, tu parles de rêves, de projets. Est-ce que tu pourrais nous en citer trois de ta bucket list que tu aurais pas encore réalisé?
Oh bah oui, alors ce serait de monter mes propres formations. Ce serait de développer des structures pluridisciplinaires pour des enfants 10 ou différents. Ce serait d'écrire un livre, enfin j'ai déjà le titre en tête que je vais faire, et puis de manière beaucoup plus rigolote, d'aller faire des courses de montagne du Valais. Il y a un challenge de course verticale et j'aimerais aller faire quelques passes sur ce truc-là parce que c'est une discipline qui me passionne. Voilà. Et j'en ai d'autres encore, hein. C'est aussi d'aller découvrir, d'apprendre d'autres langues. Ma compagne est roumaine, je ne parle pas roumain, je parle allemand, je parle anglais, je parle français. J'ai envie d'apprendre d'autres langues pour pouvoir échanger avec d'autres personnes. Revoyager, parce que j'étais allé en Argentine il y a longtemps, j'avais fait la Concagua, j'ai envie de retourner là-bas. Voilà, plein de choses qui font que faut avoir une liste de choses qu'on a envie de faire, en sachant qu'on ne fera pas tout, mais ce qui est intéressant, c'est. C'est pas ce qu'on n'a pas fait qui doit nous rendre triste, c'est ce qu'on a déjà pu faire et ce qu'on a pu faire de la journée qui doit nous apaiser.
C'est une belle remarque, je la retiendrai. Est-ce que tu aurais des conseils à me donner? Je suis un jeune papa, j'ai une petite fille de 2 ans, et pour tous les parents qui nous écoutent, est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais transmettre de ton expérience, soit sur la santé, soit en tant que père, si tu l'es?
Ouais, bien sûr, je suis père, je suis même grand-père maintenant, tout arrive.
Félicitations.
Ouais, j'y suis pour rien. Enfin, pour la deuxième, pour la première, oui, mais pour ma fille, j'y suis pour quelque chose, mais pas pour ma petite fille. Oui, il y a un truc qui est très, très important dans le sens de ce qu'on fait au niveau de l'éducation. Il y a des choses qu'on rate, mais c'est la cohérence et la transmission. La transmission, typiquement, c'est, je vais donner deux exemples. Ah, papa, pourquoi c'est comme ci et comme ça? Ah, tu sais quoi, je te repose la question, réfléchis, puis on en rediscute dans 2 jours, tu me diras ce que tu as trouvé. Ça, c'est fondamental. Et la deuxième, c'est, ouais, papa, t'as dit qu'il ne fallait pas dire de gros mots, et puis hier, tu t'es énervé, tu m'as dit merde. Je dis, oui, effectivement, il ne faut pas dire de gros mots, j'en ai dit. À ton avis, pourquoi j'ai dit un gros mot? Je t'avais un peu agacé. Attends, je n'ai pas bien compris. Je t'avais beaucoup agacé. Ah, tu m'avais beaucoup agacé. Donc, est-ce que tu peux comprendre, si tu m'as beaucoup agacé, que ça m'a énervé, que même si on n'a pas le droit de dire de gros mots, il peut m'arriver de dire des gros mots? Ah oui, hein. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire pour plus que j'en dise, pour plus que tu entendes des gros mots? Ah bah peut-être qu'il faudrait que je t'agace moi. Alors qu'est-ce qui fait que tu m'as agacé? Et tu vois, c'est ça. C'est-à-dire ne pas être dans l'obsession de la perfection, mais la cohérence. Et cohérence, c'est capable de dire, ah oh, mais tu me fais chier! Ah papa, t'as dit un gros mot. Ah oui, on va en discuter. C'est pourquoi je t'ai dit ça. Mais je suis très content de te l'avoir dit en plus. Tu vois, c'est la clé. Ces deux trucs-là, c'est majeur, c'est ce qui est le plus important, c'est ce qui va structurer au maximum les gamins.
C'est magnifique. Et on en revient à cette communication inversée. Je la découvre avec toi. Je la trouve vraiment géniale et hyper puissante. Et par ailleurs, sur cette question de pourquoi c'est comme ça, c'est une question, le pourquoi on se le pose beaucoup quand on est enfant et je pense qu'on se le pose plus assez quand on est adulte. Et on remet plus en cause la façon dont on vit, ce qu'on fait, nos habitudes, ce qu'on nous a inculqué. Tu vois, tu parlais tout à l'heure de se brosser les dents. Bah, pourquoi est-ce que tu mets du dentifrice sur ta brosse à dents? Est-ce que c'est normal en tant qu'animal humain d'avoir besoin de savon? Peut-être que la réponse est oui, hein, mais
Ouais.
pareil, est-ce que c'est normal d'acheter du muscle cellophané dans des grandes surfaces. Je prends souvent cet exemple-là et je suis pas en train de dire que la réponse est forcément non, mais remettre un petit peu de questionnement
Ouais.
dans nos habitudes qui sont acquises mais qui ont jamais fait l'objet d'un choix réel et personnel. Et ben, je
Réfléchir.
pense que ça peut, ouais, réfléchir tout simplement. C'est vrai, ça peut se résumer comme ça. C'est vachement, vachement important, vachement intéressant. Et justement, tu vois, si tu n'as plus de télé chez toi et que tu es un petit peu moins sur les réseaux sociaux, bah, tu as potentiellement un peu plus de temps pour te poser la question de ce qui t'apporte vraiment de la valeur, ce qui te
Ouais.
permet d'avancer dans ton épanouissement personnel, dans ton bonheur, dans ton interaction avec les autres, dans ce que tu apportes à la société, au monde. Et tu vois, moi aussi, je suis très peu réseaux sociaux. J'ai pas de télé non plus chez moi. Par contre, j'ai un rideau blanc que je peux descendre et un rétroprojecteur. Et quand on regarde un film avec ma femme, c'est un vrai moment de partage qu'on a
Bien
choisi
sûr.
ensemble parce qu'on avait envie de le voir et qu'il allait nous apporter quelque chose. Et on va pas regarder un truc en se disant, ah bah tiens, c'est juste sympa, ça nous divertit. Il y a des choses qu'on regarde parce que ça nous divertit, mais parce que
Bien
ça
sûr.
nous apporte quelque chose, ça nous plaît.
Mais on peut
Et
aussi avoir
sinon.
besoin de se divertir. Hein. Moi, je peux regarder un de Funès, mais très con, parce qu'à ce moment-là, c'est un truc qu'on partage. Tu vois, parce que j'ai ma compagne qui arrive de Roumanie, on a 20 ans d'écart, et ils ont découvert ce que je voyais quand j'étais ado ou gamin, ils l'ont découvert en décalé, mais ils adorent. Et des fois, on se dit, ouais, mais aucun, voilà, on regarde des trucs, tu vois, mais aucun complexe, aucun scrupule, mais on sait ce qu'on va chercher. C'est-à-dire que, il y a deux manières de parler à notre intelligence. Soit, j'allais dire, subjuguer ou interpeller, soit amuser. Parce que quand on amuse, on fait toujours appel au préfrontal. Et ça, c'est un élément qui est important. Et tu me disais tout à l'heure, parmi les recettes, il y en a une que j'ai oubliée qui est fondamentale, c'est je tiens par la main le petit enfant que j'étais. Il faut jamais le lâcher, lui. Parce que si on l'oublie, il nous le reprochera toujours.
C'est très beau. C'est très beau. Moi, pendant longtemps, justement, je l'ai complètement oublié. Et quelques expériences, peut-être un petit peu plus spirituelles, que j'ai eu l'occasion de faire depuis que j'ai lancé ce podcast, comme par exemple le yoga Tummo en Italie ou l'ayahuasca en Suisse, m'ont permis de me reconnecter à lui et de comprendre qu'en réalité, tu vois, ce petit enfant fragile que j'avais voulu cacher et protéger derrière une armure en fer blanc était l'une des choses les plus belles et des plus précieuses que j'avais au fond de moi, même si. Il me faisait peur de par des traumatismes que j'ai pu vivre quand j'étais plus jeune ou ce genre de choses, tu vois. Et donc, le laisser s'exprimer et vivre. Et on en revient un petit peu à cette reconnexion au cœur et au fait que quand tu écoutes ton cœur, tu te trompes jamais. Mais ouais, c'est très beau, c'est très beau. Et sur l'importance de rire aussi, évidemment. Nous, avec ma femme, 2 fois par mois, on se fait une soirée avec un film drôle. Et voilà, juste pour rigoler un bon coup. Et c'est sacré, tu vois, dans notre couple. C'est un rituel qui est tellement important. Et pourtant tellement simple.
Ouais, puis ça peut être au quotidien. Moi, des fois, mon fils qui a 18 ans, il me dit, tu me fais honte. Parce que un truc que j'adore faire, tu vois, c'est arrivé dernièrement. J'imite très bien le chien. Donc, puis il y avait une mamie qui passait en tenant son chien au bout d'une laisse, mais le chien était derrière elle. Donc, au moment où je dépasse la dame et j'arrive à hauteur du chien, j'aboie et puis je fais, ah là là là, quel connard ce chien! Et le chien se fait engueuler par la maîtresse. Mais on rigole. Et mon fils, il fait, ah, mais t'es con, papa, pour chien et tout. Je fais, ah non, mais qu'est-ce que ça m'amuse. Il fait, mais c'est pas possible. Et tu vois, il a honte. Bon, voilà, c'est des trucs comme ça. Ou alors, quand je partais courir en groupe, je me mettais toujours en queue de peloton quand je voyais qu'il y avait un panneau à hauteur de tête qui était sur le côté de la route. Et quand je passais à hauteur, je tapais un grand coup de la main contre le panneau. Puis je faisais, comme ça, en me tenant dans la tête. Donc, tout le monde disait, ah là, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Puis je repartais, je fais, non, non, ça va, tout va bien, j'ai récupéré. Voilà, genre de conneries, mais ça m'amusait. Mais ce qu'il y a, c'est que je faisais ça à 15 ans, je faisais ça à 18 ans, mais Je veux dire, je passais 60 balais, je continue de faire des conneries comme ça, et il y a des gens qui ne comprennent pas. Sauf que moi, au moment où je le fais, je ne peux pas faire autrement. C'est juste que c'est comme ça, quoi.
Ouais, quand on vieillit, on devient de plus en plus sérieux, alors qu'en réalité, il n'y a rien de plus beau que l'exubérance humaine. Tu vois, c'est
Voilà.
ce petit excès de folie, ce petit supplément d'âme qui permet de transformer le classique et la platitude en des ondes virevoltantes et magnifiques. Tu vois, dans tout ce qu'on fait, on a tendance à manquer, à inhiber les couleurs avec lesquelles on vit, les couleurs qu'on met dans nos voix, dans les superlatifs qu'on utilise, etc. On essaie de tout normaliser vers une voie du milieu, justement, pour pas faire trop de vagues, pour pas trop se faire remarquer, alors que c'est cette exubérance qui nous caractérise, qui te rend heureux toi-même et qui rend heureux aussi les gens autour de toi, tu vois, sinon c'est
Ouais.
chiant à mourir.
Bah, tu vois, le dernier exemple, il y a quoi, il y a 3 semaines de ça. Non, c'est un peu plus longtemps, j'étais encore en France. Appel téléphonique, oui, bonjour, madame, je ne sais plus comment. Voilà, je vous appelle pour le magazine Notre Temps. Nous avons vu que vous avez l'âge pour être abonné à cette revue. Est-ce que vous intéresse? Et moi, j'ai fait, vous savez, je ne sais pas si j'aurai le temps de le lire. Je suis abonné à Hard Rock Magazine, il y a beaucoup de lectures dedans. Et là, elle dit, ah bon, mais ça ne vous intéresse pas? Je fais, je sais pas. Écoutez, moi, vous savez, les croisières, c'est pas mon truc. Bon, ben voilà, mais elle était l'avoir désarçonnée. J'avais complètement prise par surprise. Elle était, c'était trop drôle, quoi, parce que c'est, il y a des clichés comme ça, tu vois, qui participent encore à la bonne organisation sociale de la gestion de l'angoisse de mort, tu vois. Si tu prends pas ta retraite, que tu continues de bosser, que tu continues de t'éclater à faire des trucs. Alors que bah, quelque part, tu prends à contre-pied la stratégie collective qui permet de gérer l'angoisse de mort. Donc, quelque part, tu es un emmerdeur, puisque si tu ne fais pas comme eux et puis que tu es très bien, bah, est-ce qu'on a eu raison de faire ça tout le temps? Alors que moi, je ne suis pas là pour provoquer les gens, je suis juste des choses qui me vont bien et je ne me pose pas la question de savoir ce que ça peut susciter, mais je me rends compte que parfois, c'est super troublant, quoi.
Oui, bah, c'est comme celui qui arrête de fumer alors que ses potes n'arrêtent pas et qui ceux qui continuent à fumer essaient de dissuader parce que quelque part, ça les culpabilise vis-à-vis de
Ouais,
leur propre faiblesse.
absolument, absolument.
Est-ce que tu aurais un prochain invité à me recommander pour poursuivre ces belles discussions sur le potentiel humain?
Alors, je réfléchis qui je pourrais te conseiller. Oui, il y a quelqu'un qui pourrait être très très intéressant à rencontrer, c'est Martin Vieusec qui était. Alors, c'est une histoire assez rigolote. J'étais allé faire une formation à Nantes il y a au moins une quinzaine d'années et j'étais dans le train de retour et puis j'étais en train de travailler sur des notes pour un article, tu vois, parce que je travaillais dans Sport et Vie à l'époque et puis je pars aux toilettes et le jeune là, il se réveille, il regarde le truc, il me fait ah non mais vous n'êtes pas devenu riche ceci? Je dis si, mais je sais, mais j'ai payé des gens pour me reconnaître dans la rue, je dis, donc je savais pas que je vous avais payé. Alors il éclate de rire. Et en fait, c'était un jeune qui était passionné par bon, qui lisait cette revue et qui avait monté une association qui s'appelle Fac Verte. Et il a organisé des conférences par rapport au cancer. Il était à Cergy. Après, il a été. Donc, il est devenu ostéo. Il a été investi dans. C'est lui qui a lancé le projet de la. Comment dirais-je? De la primaire populaire avant les élections qui ont eu lieu récemment, et puis qui s'est réinvesti maintenant dans des projets coopératifs et qui est très investi dans l'environnement. C'est un mec assez incroyable qui a quoi, qui a une trentaine d'années, mais qui, si tu veux, c'est un ami quoi. C'est du transgénérationnel. Il est vraiment assez étonnant. Et moi, ça me donne beaucoup d'espoir parce que, comme je dis, j'ai beaucoup d'expérience, mais je n'ai pas encore trop pour être sénile. Et je crois qu'on n'a jamais été aussi près d'un basculement positif dans notre société, même si on ne parle que des trucs violents, de la fureur, de la guerre, etc. Il n'y a jamais eu autant de gens qui se sont dit, la société dans laquelle on est n'a plus de sens, faut pas que ça continue. Et on a une idée très précise de ce qu'il peut y avoir après. On est prêt, sauf que on a l'impression qu'on est tous isolés et qu'on n'arrivera jamais à faire quelque chose. Ça n'a jamais été aussi près. Moi, je vois, si je fais une conférence, il y a plus de monde qu'avant. Peut-être que je suis un peu plus connu aussi, mais bon, c'est un microcosme. Hein. Je dis, moi, j'écris dans une niche, c'est une niche à Chihuahua. Hein. Il n'y a quand même pas 50 000 personnes qui lisent les bouquins. Ah si, 50 000, si, mais pas plus. Mais voilà, mais j'ai jamais vu autant de tendances positives et encourageantes, étonnamment.
C'est génial d'entendre ça de ta part parce que moi je me fais la même réflexion, mais c'est facile parce qu'à mon âge, je commence simplement à prendre conscience de certaines choses. Alors que toi, de par ton âge et ton expérience, tu as pu vraiment voir l'évolution et donc en être un réel témoin. Donc, le fait que ça vienne de ta bouche suppose que c'est une réelle tendance de fond et que ça n'a pas toujours été comme ça et que chaque personne de 30 ans ne se fait pas toujours les mêmes réflexions au même âge, mais qu'il y a une réelle évolution, émulation collective. Donc
et, ça m'a, et ça m'apaise beaucoup parce que c'est quand même pas mal de gens de ma génération qui ont contribué à accélérer le merdier dans lequel on s'est trouvé. Hein. Donc, des gens qui ont renoncé à leurs valeurs et autres. Moi, j'en ai quelques-uns qui étaient utopistes, voire révolutionnaires, qui étaient. Bon, parce que Jussieu était une femme de gauchiste, hein, comme on disait à l'époque. Moi, j'étais objecteur de conscience. D'ailleurs, c'était rigolo parce que j'avais fait tous les tests. Et j'étais le dernier à avoir réussi tous les tests et j'avais été reçu par l'officier. Alors, pourriez être sous-officier, pourriez faire la traduction, pourriez être au service scientifique. Ah, le bataillon de Joinville aussi, parce que vous faites du sport de niveau. Vous voulez faire quoi? J'ai dit, je vais être objecteur de conscience. Il dit, mais pourquoi vous avez fait tous les tests? J'ai dit, bah, parce que j'ai rien contre vous. Moi, je me sens pas capable de tirer sur un mec, mais j'ai jamais dit que l'armée était inutile, sauf que c'est pas pour moi. Et j'ai eu une discussion incroyable qui me dit, bah alors vous voulez faire quoi? C'est quoi votre projet? On a discuté 20 minutes. Et si tu veux, voilà. Et moi, c'est juste que j'étais très intransigeant sur ce qui me paraissait important. Tu vois, j'ai jamais fait de prosélytisme. Hein, je veux dire, c'est ma vie, c'est ma vie. Et il y a beaucoup de gens qui étaient investis, qui engagés. Et puis, il y a des petits renoncements, tu vois, parce que là, il faut gagner sa vie, puis il faut bien une maison, puis il faut bien une voiture, et puis ci, puis ça, puis il faut le cheval pour les gamins. Et donc, même si tu as des objectifs qui paraissent louables, tu finis par t'écarter de plus en plus de tes valeurs et tu finis par te dire, mais en fait, je passe mon temps pour gagner du pognon, pour des choses qui ne seraient peut-être pas aussi importantes que ça si on voyait les choses autrement. Et ce n'est pas un jugement, hein, parce que c'est difficile ce cheminement, mais voilà, il y a eu des renoncements. Il y a des gens de ma génération, c'est la retraite, on se fait vacciner pour partir en bateau pour faire des voyages ou pour pouvoir prendre l'avion. Je dis, mais oh! La planète, là. Ça... Ouais, mais bon, de toute façon, nous, on n'en a plus pour longtemps. Je dis, mais attendez, vous pouvez dire ça? J'hallucine, tu vois. Donc, et c'est vrai que je trouve que dans les générations qui montent, il y a une colère supplémentaire vis-à-vis des gens de ma génération. Et moi, je suis très âgé avec ça parce que je ne me sens pas concerné par leur colère.
Clairement, clairement, je pense aussi qu'il y a beaucoup de trentenaires qui posent des actes conscients et réels pour vivre plus en harmonie avec la nature et puis quelque part avec eux-mêmes. Et d'ailleurs, j'ai enregistré un super épisode avec Paul Landon, je ne sais pas si tu connais, sur le sujet.
Non.
Pas directement sur le sujet, mais on en parle aussi parce qu'il est assez engagé sur la question. Mais voilà. Je vois que tu es hyper accessible parce que tu m'as cité plein d'anecdotes où tu avais pris plaisir à parler avec de parfaits inconnus. Comment est-ce qu'on travaille avec toi? Comment est-ce qu'on entre en contact avec toi? Tu as tes livres. Déjà, tu peux peut-être me décrire deux, trois livres. Donc, il y a Épinutrition, il y en a un sur le cerveau.
Ouais, ça s'appelle comment le microbiote gouverne notre cerveau.
Voilà, c'est ça.
Qui a bien marché d'ailleurs. Alors, c'était pas très flatteur parce qu'à un moment donné, j'étais numéro un des ventes au niveau gastro-entérologie et j'avais Julien Ders juste qui me collait au cul. J'ai dit, quand on voit qu'il s'intéresse à l'art du paix, c'est pas forcément brillant d'avoir Julien Ders qui te colle au cul. Mais voilà, j'avais dévancé à un moment donné au niveau des ventes. Hein, c'est le charme discret de l'intestin. Chaque livre répond à un objectif, une pulsion qui est là. Et il y avait aussi celui sur la fibromyalgie, ne nourrissez plus votre douleur. En fait, depuis 2009, finalement, ce que j'écris, c'est plus directement en lien avec le sport, mais puis ça en parle parce que ce que j'observe dans ce milieu nourrit ma réflexion. Mais les gens, ils ne se rendent pas compte qu'il y a des thérapeutes qui disent « Ah, une richesse spécialiste de nutrition du sport ». Je fais « Hey les gars, atterrissez ». Ça fait quand même 14 ans que j'ai bifurqué vers quelque chose qui est beaucoup plus systémique, mais encore une fois, ça vous arrange de le regarder comme ça, mais peu importe. Donc oui, c'est vraiment ces trois bouquins-là. Et puis le prochain qui est encore sur lequel je suis en train de réfléchir, le titre n'est pas encore arrêté. Je t'en dirai plus à l'occasion. Je pars encore un peu plus loin dans la vision un petit peu systémique Et voilà, et puis je ne dis pas que c'est le dernier, parce que c'est comme les artistes qui disent que c'est leur dernier disque, puis ils ont toujours des trucs supplémentaires à proposer, donc voilà.
Tu sais, moi, je prends toujours l'exemple de Clint Eastwood, 91 ans, qui tourne encore un film, qui est en pleine forme, etc. Et je pense que c'est la passion aussi qui maintient le corps en vie. Ah bah, je te souhaite d'en écrire, de continuer à en écrire beaucoup.
Ouais, et puis donc après, pour les contacts, c'est vrai que les gens qui veulent des rendez-vous, ils passent par le site, qui était denisriche.fr, qui va devenir denisriche.ch, puisqu'on est en train de basculer. Et oui, il y a un peu de délai, mais ça reste accessible, il n'y a pas de souci. Voilà.
Je te propose de faire un petit check-out en écho au petit check-in qu'on a fait en début de podcast. Qu'est-ce que tu as pensé de cette petite heure 40 de discussion?
Bah, c'était intéressant, sauf que je ne t'ai pas du tout emmené là où tu voulais qu'on aille. Mais je suis très content parce que je peux prendre le temps d'exposer la manière dont je perçois vraiment l'approche systémique et le rapport à l'humain faire entendre comment je fonctionne finalement, parce que beaucoup de gens ont des idées reçues, je pense, et ils pensent que je suis noyé dans des considérations scientifiques. Donc moi, ça m'a beaucoup plu. J'ai trouvé que les questions étaient aussi avaient du sens, étaient bien amenées, qu'il y avait une vraie passion aussi dans ce que tu faisais. Donc je suis d'autant plus content et heureux d'avoir contribué à apporter quelque chose.
Eh bien, écoute, c'est le cas, effectivement. Je... Après, tu vois, c'est des discussions, donc je n'ai pas vraiment de plan préconçu. Mais c'est vrai que j'imaginais une discussion peut-être plus réductionniste, entre guillemets, alors qu'elle était beaucoup plus holistique. Et au contraire, ça lui donne une dimension beaucoup plus intéressante de mon point de vue. Et cette nouvelle vision, entre guillemets, du stress m'a beaucoup interpellé et donc donnera lieu à de nouvelles réflexions. En tout cas, tu vois, ces podcasts, pour moi, c'est une forme de terreau, un vrai terreau de réflexion pour mener mes propres explorations. Et donc, je te remercie de m'en avoir donné.
Tu connais l'effet papillon ? Un battement d'ailes peut changer le monde. Alors, si cet épisode t'a plu, partage-le autour de toi. Pour ne rien oublier, sache aussi que tu peux retrouver les meilleures citations et hacks dans l'article lié sur limitless-project.com. Enfin, j'ai une grande annonce à te faire. Le premier festival Limitless Project, réunissant les invités et auditeurs pour des conférences passionnantes, des ateliers exubérants et des rencontres hors du commun, aura lieu le week-end du 15 septembre 2023. Tu peux déjà booker la date, ce sera un moment magique. Belle journée !